Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Qu'est-ce que tu me demandes? Comment est Rémi André?
C'était lui. Oh, c'était lui, Rémi André.
C'est quoi?
C'était lui.
Bah oui.
Bah oui, c'était lui.
Rémi André tout à l'heure.
Bah oui, tu sais bien que Rémi André fait la météo sur Sud Radio quand même.
Bien sûr, mais enfin, je te demande, c'était lui.
C'est bien lui, avec sa barbe et tout. Voilà. C'est Rémi André.
Respectable.
Ça dépend des moments, mais on en reparlera avec lui tout à l'heure. Il en donne l'impression.
Mais enfin, toi, Philippe, tu donnes l'impression, mais alors là, t'es un vrai canaille.
Oh, canaille. Le vilain Philippe.
Non, mais Babette.
Mettez-lui une fessée.
Mais je vais lui donner une fessée. Regardez, il est sage comme
un
animal.
Tiens, un coup de fouet. Hop,
il est sage comme un animal.
Non, à moi, je suis pas zon.
Philippe, tu vois, tu as reçu une claque.
Oui, bah moi c'est le spectacle tous les lundis entre Babette et Philippe.
Tous les lundis. Et alors, tous les lundis. Ça monte.
Le lundi, c'est fabuleux.
Un lundi au soleil. La la nina 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 na. Bon, les vraies voix sur Sud Radio, chers amis, nous sommes ensemble, c'est le 11 novembre. Les Français sont au repos, peut-être sont-ils dans leur voiture, peut-être êtes-vous dans votre voiture effectivement en train de rentrer de week-end. Eh bien, on vous accompagne, voilà, sur Sud Radio avec Philippe Binger. On va dire Binger, un Macron BA, il faut quand même le reconnaître.
Un Macron lucide.
Oui, et pas si un Macron, un Macron, on a dit, c'est en pas la même chose. Un Macron BA. Babette de Rosière, Macron compatible, là, il faut le dire quand même.
Tu parles pour toi.
Enfin,
t'as pas une généralité, Christophe.
Ça se voit quand on vous entend dans vos discours, Christophe, sur la région Île-de-France, tout
ça. Alors, tu m'as jamais entendu dans un discours, c'est pas vrai.
Pas ça.
Philippe Rossi.
Pas ça.
Philippe Rossi, Macron, mais pas trop.
Voilà.
Trina, et bien entendu, notre DJ. Oui. DJ Riette Dumont.
En raison de ce jour férié, nous n'avons pas pu produire de remix.
Dis donc.
Je veux nous excuser pour la gêne occasionnée. Non, je déconne. Ha.
Depuis 15 jours, Philippe, je fais des tasses sur les cravates.
Mais comment vous
je mange trop vite et je mange comme un russe.
Ça va polluer encore plus ça. Hein.
Ah bon.
Il n'a pas d'expérience dans ce domaine.
Je vais te virer.
Qui est responsable de cette désorganisation?
Je sais même plus.
Bravo. On
bon, bah, DJ Riette, il vous a pas raté.
Il est très fort.
Il vous a pas raté.
J'ai une forme d'indulgence pour lui.
Vous dites ça parce qu'il fait 1m60, c'est ça?
Non, pas du tout. Mais écoute, j'aime bien sa voix, j'aime bien sa manière d'être, j'aime bien la manière dont il se moque de moi, ce qui est très rare.
Ouais, vous aimez bien tout le monde, en fait.
Non,
vous.
Pas du tout. Non, absolument pas.
Ici, en tout cas, à Sud Radio, je pense que vous aimez bien tout le monde.
Là, à peu.
Mais par exemple, qui vous n'aimez pas?
Oui, qui non, vous n'aimez pas?
Trop long.
Non.
Je n'ai dans ma vie intellectuelle sur 50 ans et judiciaire, je n'ai que deux personnes que je ne veux plus voir. Mais même physiquement.
Oh, ça fait peu, effectivement. Ça fait peu. Bah, quand je dis qu'il aime tout le monde.
Ah oui.
Bah,
Christophe, ça ne veut pas dire que j'aime tout le monde. Au contraire. J'ai beaucoup cultivé l'art de déplaire et je pense bien continuer.
Ah ben là-dessus, vous êtes très fort.
Vous n'êtes pas véritablement un bienveillant, c'est pour ça qu'on s'entend bien.
Si, moi j'aime tout le monde, sauf vous.
voilà. Mais vous voyez, c'est tellement facile, je ne vous réponds pas.
Oui, vous avez raison, il faut prendre de la hauteur dans ces cas-là, absolument. Bon, je disais évidemment DJ Riette parce que Thibaut est du Mans, il est de la Sarthe.
Merci.
Et on adore la Sarthe, c'est tellement bon les
riettes.
Oui, tu pourrais nous apporter des riettes quand
même.
Et
des tripes aussi.
Oui, il est là presque toute la semaine. Franchement, d'ici vendredi, on veut des rillettes. Voilà, avec du bon
c'est
pain.
C'est le mois de la triperie, il faut amener des tripes.
C'est le mois de la triperie?
Bah, bien sûr. Je suis chef de cuisine.
Mais il
n'y
a pas
les
tripes du Mans. Ça n'existe pas, les tripes du Mans.
Sarthe.
Est-ce que vous croyez que Macron aime les tripes?
Oui.
Ah, il aime les tripes?
Il doit tout manger.
Comment vous le savez, vous?
Est-ce qu'il en a déjà?
Est-ce qu'il en a d'ailleurs?
Oui, il en a. Ah, oui. Il en a, c'est clair.
Il a des batteries.
Et je pense qu'il aime beaucoup cette nourriture bien franchouillarde. J'en suis persuadé.
Bon, on va essayer de savoir auprès de son chef cuisinier s'il en mange régulièrement et s'il mange aussi des rillettes du Mans. Tiens, manif des urgentistes, et ça va être plus dur à digérer, bien évidemment. Manif des gilets jaunes, manif des assistantes maternelles, semaine sociale chargée, agitée pour le pouvoir. Et cette question, Emmanuel Macron, peut-il encore encore répondre à la colère. On vous attend au 0826 300 300. C'est notre premier débat tout à l'heure à 17h30. Autre débat, l'Union des démocrates musulmans français. Dans le viseur, oui, dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Réunion demain au ministère avec plusieurs leaders de la droite, notamment. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux municipales. Oh, alors on vous pose cette question. Faut-il interdire les listes communautaires en France? Non. Et puis les vraies voix politiques. On reviendra à partir de 19h sur la manifestation contre l'islamophobie. C'était hier à Paris et évidemment, ça fait polémique. Mais avant, le tour de table de l'actualité, c'est parti.
Encore ces stupides actualités.
Ça dépend de la masse d'informations.
Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous.
Le tour de table
de l'actualité.
Alors, Philippe Bilger, bon, on va beaucoup parler de l'islam, on va parler du voile d'ici 20h, etc. Et justement, vous vouliez revenir sur une histoire qui s'est produite à Versailles.
Absolument, Christophe. On ne devrait pas se féliciter de voir une rectrice de Versailles ou un recteur tout court appliquer la loi ou la faire respecter. Et voilà une rectrice qui est de la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA, qui arrive dans une école maternelle à Clamart où elle voit à l'intérieur donc de l'école maternelle, six mères en train d'assister à des exercices et de les faire pratiquer à des petits-enfants. Sur ces six mères, il y en a trois qui sont voilées. Eh bien, immédiatement, elle tourne les talons, elle considère que la loi n'est pas respectée et en plus, elle ne souhaite pas faire des réprimandes devant les petits-enfants à la directrice de l'école. Eh bien, je considère que cette rectrice a relevé un peu l'honneur d'université et de comportements qui n'ont pas été brillants. On en a parlé ces derniers jours, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Je trouve que c'est bien. Et le comble, c'est qu'on est obligé de féliciter une rectrice parce qu'elle fait appliquer la loi. Et des gens viennent lui dire après, oui, mais attention, il aurait fallu discuter. Évidemment, au sein de l'institution, c'est classique. Mais moi, je lui dis bravo.
Alors, ce qui est sûr, c'est que visiblement, ça faisait quand même... Enfin, c'était pas la première fois, en tout cas, que ces mamans voilées venaient participer à des travaux... avec les enfants, avec les institutrices, etc., etc., et que jusqu'à présent, ça avait gêné visiblement personne. Alors certes, le voile est interdit à l'école, dans les institutions publiques, etc., mais une fois de plus, j'ai envie de dire, bon, c'est pas une burqa non plus, quoi.
Mais Christophe, c'est très dangereux votre raisonnement, et je le dis sérieusement, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'une loi claire, explicite, complétée par un vade-mecum sur la laïcité n'impose pas un respect absolu, on va tomber dans une sorte de situation très préoccupante. On a déjà du mal avec certaines lois sur l'accompagnement scolaire pour les faire respecter. Lorsqu'elles sont claires et sans équivoque, là, on ne peut pas accepter qu'elles soient transgressées.
Alors, bon, qu'est-ce que disent ces mamans, hein ? Elles disent la chose suivante. Réagir comme ça un jour de lutte contre le harcèlement, ça montre qu'ils n'ont rien compris. En plus, ils représentent l'autorité. Ils devraient être les premiers à montrer la bonne attitude au lieu de prendre la fuite parce qu'ils ont vu un tissu qui couvre les cheveux. C'est ce que déplore en tout cas l'une des mamans qui était là. Voilà ce qu'elle dit.
Eh bien, c'est tout à fait discutable parce que ça n'est pas un tissu qui couvre les cheveux. Elle n'a pas pris la fuite. Elle a expliqué sa position parce qu'elle ne voulait pas créer une altercation devant des petits-enfants.
Et le maire de Clamart a fait pareil, hein, puisqu'il était avec la rectrice au moment où ça s'est passé.
Cette maman, elle a tort. Elle fait respecter la loi et bon, c'est tout. Alors, il est dramatique de devoir justifier un comportement normal.
Philippe aussi, elle ne faisait rien de mal, cette maman. Enfin, ses mamans ne faisaient rien de mal.
Non, mais je comprends la rectrice de Versailles qui a voulu marquer le coup et qui a voulu qu'on ne banalise pas ces femmes voilée au sein de l'école publique. Donc moi, je pense qu'elle a bien fait de partir. Maintenant, c'est vrai, Christophe a raison, c'était un jour de lutte contre le harcèlement scolaire, ce qui est un jour très important. Elle aurait peut-être pu avaler une couleuvre, y aller, faire son truc et puis après, partir et peut-être envoyer un communiqué ou passer
mais
un
coup de fil. Mais quel rapport avec le harcèlement ?
Non, mais elle aurait pu. Ce qu'elle aurait pu faire, c'était demander en fait aux mamans de l'accompagner, par exemple, dans le couloir, pourquoi pas,
et lui dire à part.
Et leur dire directement, à part, les enfants, directement, je vous remercie d'enlever votre voile parce que c'est la loi. Voilà, point barre.
Mais
au lieu de repartir dans l'autre sens sans rien dire.
Mais Christophe, c'est très facile, toujours a posteriori.
Ah ben ça c'est sûr, vous avez raison.
On a trop de lâcheté aujourd'hui en France, scolaire ou autre, pour ne pas féliciter cette rectrice. Moi, je continue sur ma pente, si j'ose dire.
Moi, je n'aurais pas fait ça. Moi, je pense que j'aurais appelé la dame à part pour lui dire pas devant les enfants, comme tu as dit.
Oui.
Parce que je n'aurais pas fait de réflexion comme ça à la cantonade. J'aurais appelé, j'aurais dit madame, s'il vous plaît, c'est plus courtois. Et puis, c'est plus facile devant les enfants.
Mais elle n'a pas fait de réflexion à la cantonade.
Elle a tourné les talons.
Oui, elle a tourné, mais bien sûr, mais c'est voilà. Pire.
Ouais. Ah, et non, donc, c'est pris comme une fuite.
Bien sûr.
Alors, un certain nombre.
Ce n'est pas le cas. Ouais. Alors que, bravo.
Il y a tellement de choses bizarres qui se passent en ce moment.
On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour la suite du tour de table de l'actu. À 17h30, manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles, semaine sociale agitée, chargée pour le pouvoir et cette question. Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? 0826 300 300. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la suite du tour de table de l'actu. Et il s'en passe des choses pendant la réclame, les amis. Mon Dieu, qu'il s'en passe. Et notamment, on apprend pendant la réclame que Babette de Rosière est prête à, avec ses yeux, avec sa bouche, à séduire Bingère. C'est ce qu'elle vous a dit.
Totalement.
On est bien d'accord.
Mais vous êtes fou.
Quand on voit Philippe Bingère et Babette, on a l'impression que ce sont deux adolescents qui se cherchent un peu.
Un vieux couple.
C'est très touchant.
On essaie d'avoir l'esprit vrai voir, quoi. Mais on n'y arrive pas, peut-être. Mais Babette est insupportable parce qu'elle apporte du trouble et du désordre dans une émission en général bien réglée.
Tu parles pour toi, Philippe?
Bah oui, c'était ce matin, tiens ça. Ouais. Ouais. Le tsunami démocratique groupe à l'origine des immenses manifestations indépendantistes en Catalogne qui a bloqué l'autoroute au niveau de la Jonquera et des échangeurs du Boulou et de Perpignan Sud sur l'autoroute A9. Les résultats des législatives espagnoles, bien sûr, qui ne règlent absolument rien, les socialistes remportent ces législatives, mais sans majorité. Donc, pour faire une coalition, ils n'ont déjà pas réussi la fois d'avant, ça ne va pas être mieux cette fois. Et puis, Vox, le parti d'extrême droite, qui double son score.
Ah oui, c'est énorme.
52 élus. Ouais. Il fait plus que doubler son score, d'ailleurs. Et moi, je trouve ça très dangereux parce que c'est quelque part les indépendantistes qui font grimper Vox, qui font grimper l'extrême droite. Donc l'un se sert de l'autre.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où va l'Espagne et comment va aller l'Espagne dans les années qui viennent, parce que comme tous les pays d'Europe, la politique se fragmente. C'est vraiment incroyable. Bon, mon cher Philippe Rossi, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité?
Eh bien, écoutez, il y a 2 mois à peine, une nouvelle ligne d'écoute avait été lancée. Rappelez-vous, une ligne d'écoute pour prévenir le suicide des policiers. Un numéro vert qui permet aux policiers de tomber sur un des 70 psychologues présents quotidiennement sur la plateforme. Eh bien, figurez-vous que 2 mois après, cette ligne d'écoute est un véritable succès avec 200 appels par jour.
Ah oui.
Alors, motif principal des appels, je vous le dis, numéro 1, motif principal des appels, épuisement professionnel, bon là on s'en doutait évidemment. Le deuxième motif, c'est le manque de reconnaissance de la part des politiques, mais aussi de la part des Français. Et oui, les policiers trouvent que les politiques
ne sont pas reconnaissantes, les Français non plus,
je pense que ça fait suite aux nombreuses agressions.
Les gilets jaunes
ça m'étonne un peu, mais comme il y a eu les gilets jaunes, effectivement.
Non, mais c'est vrai, quand on se souvient les attentats de 2015, et malheureusement, on va commémorer bientôt les 4 ans.
Ils étaient acclamés.
Ils étaient acclamés, les policiers, quand même, il faut s'en souvenir.
Alors, ce serait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, en off, se serait gargarisé du succès de cette ligne d'écoute. Alors, là encore, je ne sais pas s'il y a de quoi gargariser, puisque ça prouve qu'il y a vraiment un profond malaise chez les policiers, tout simplement.
Oui, évidemment.
Avant, 200 appels par jour.
Avant, il parlait beaucoup, Christophe Castaner. Maintenant, il est en off.
Il parle un peu moins, oui.
Il est en off.
Oui. En on, il parle un peu moins.
Ah oui, en on.
Par contre, vous êtes en on, ça s'entend.
Je suis à la radio.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est les vraies voix.
Oui, vous êtes une vraie voix, vous?
Oui, tout à fait. Je peux même vous dire, j'ai un coup de gueule à pousser.
Oui, ah bon, vous écoute.
Parce que le sous-directeur...
Elle a une voix de cougar, je trouve, un peu.
Mon Dieu, aujourd'hui, c'est ma fête. Oui. 11 novembre, pourtant, c'est le 17 novembre, ma fête.
Il y a 6 jours en avance.
Alors, 6 jours en avance, vous me, oh là là, vous me fêtez ouais. ça royalement.
Comme ça, c'est réglé.
Alors, le sous-directeur des ressources humaines de la, du ministère de la Culture, très prévenant, qui offrait des cafés et des thés aux femmes qui venaient, justement, pour demander un emploi, se gênait pas pour mettre un petit peu de diurétique dans... dans ce, dans le thé, dans le café.
De quoi, quoi?
Ensuite, il accompagnait ces dames pour aller faire une visite.
Attends,
du ministère.
Pas qu'il faisait, je comprends pas.
Il mettait un peu de diurétique. Ça veut dire une substance qui fait faire pipi. Si tu veux, mais ça va.
Attendez, attendez, vous êtes en train de dire qu'il pissait dans les verres.
Non,
et
il prenait le produit, c'est un produit qu'il mettait dans le café ou le thé pour permettre aux femmes d'aller, d'avoir envie de faire pipi.
Ah oui, d'accord.
Et après, il partait avec ses femmes pour aller faire visiter le ministère. Et chemin faisant, les femmes avaient envie de faire pipi, une violente envie de faire pipi. Alors, il y en a qui faisaient pipi sur elles, il y en a d'autres que, qui se cachaient et lui, il prenait le manteau pour cacher.
Mais
et en même temps, il faisait les photos.
Ça,
il faisait les photos des femmes qui faisaient pipi.
Non.
Ben oui, mais je t'ai dit, c'est un pervers.
Il regardait
les visages pour voir l'expression des visages des femmes qui faisaient pipi.
Mais quelle perversion.
Et ça la mettait en joie.
Ça va loin quand
et
même. Hein. Ça va super loin.
Grâce au... Il y a 200 personnes, 200
mais c'est
femmes.
Qui
donc il a été viré,
c'est
lui.
Le sous-directeur, je connais pas son nom, c'est dommage. C'est
oui,
c'est
vrai, je l'ai pas bien regardé aussi. Si
tu veux pas me dire qui c'est le sous-directeur.
Christian
N. Il n'a pas le nom. On le protège encore, ce salopard, alors qu'il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, sous son ordinateur, on a trouvé une vingtaine. Mais en réalité, il y en a plus de 200. Et maintenant, il y a, grâce à Riester, il y a une procédure, justement, de révocation.
Et une femme a failli mourir.
Oui. Il y a une femme qui a été à l'hôpital, il y a une péritonite et tout, parce qu'elle a conservé le pipi à cause de ce salopard.
Mais ce type, j'espère qu'il va être jugé. Hein,
parce que là, maintenant, ça y est, déjà révoqué. Et de toute façon, il va être radié de la fonction publique.
Oh,
et il faut savoir
c'est
que c'est une sanction qui est extrêmement rare.
Bon, eh ben dis donc, chers amis, nous partons dans nos belles régions de France, notre vraie voix régionale.
Ah ben ça fait ni chaud ni froid de savoir qu'il y a une femme, il y a des femmes qui se font...
Bah si, on a tous réagi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus
Voilà,
on espère qu'il va être condamné, comme on t'a dit.
Monsieur Bidjian n'a rien à dire.
Mais moi, j'ai ajouté des détails que vous n'aviez pas donnés.
Bah ça t'intéresse,
le détail, attendez.
Ça nous intéresse beaucoup, mais dans l'actualité, il y a malheureusement beaucoup de choses.
Au moins que je voulais en parler.
Et
d'ailleurs,
il y a notamment ce séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter à 10 km de Montélimar dans la Drôme à la mi-journée, ressenti jusqu'à Lyon ainsi que dans le Gard, le Vaucluse. Lionel Maillet, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors Lionel, vous êtes du côté de l'épicentre de ce tremblement de terre, je crois. Hein.
Exactement, à 10 km de Montélimar, le Teil, c'est une commune de 9000 habitants, et c'est là où il y a les plus gros dégâts, 300 à 400 sinistrés, 200 maisons. Alors, certaines sont carrément par terre, c'est les plus vieilles maisons du centre-ville et de certains hameaux. Ce sont des maisons en pierre qui datent évidemment, qui se sont partiellement ou totalement écroulées, puis d'autres qui sont lézardées, fissurées. Il va falloir que des pompiers, des experts passent pour vérifier si les gens peuvent rentrer. Ce qui veut dire que ce soir, il y a donc 300 à 400 personnes qui vont passer la nuit dans trois gymnases qui ont été réquisitionnés dans la ville. Ils vont pouvoir.
Oui, ça, c'est les mesures qui ont été prises par le maire, hein, c'est ça?
En France?
Voilà, exactement.
Oui, alors, attendez. Montélimar, c'est en France.
Mais
oui,
non, mais c'est pas ça. Moi, je m'étonne de voir qu'il y a un tremblement de terre
de cette importance-là en France.
Parce qu'on a l'habitude d'entendre ça ailleurs, mais en France, ça m'étonne.
Il n'y a pas que la Guadeloupe dans la vie.
Il y en a plus qu'on pense.
Oui,
Là, ça faisait entre 15 et 20 ans qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre dans ce secteur.
Écoute, j'ai jamais entendu ça en France.
Il y a des zones sismiques en France.
Ben oui, mais là, c'est violent quand même.
Ça peut être.
Moi, j'en ai vécu un de 30 secondes à Annecy.
Il y a combien de temps? En 1996.
Non, bien avant, je crois.
D'accord.
Moi, j'en ai vécu un aussi.
Moi, c'est assez rare. C'est la première fois que j'entends
vous
ça.
Vous en avez vécu un?
Bah, la vallée du Rhône, c'est normal. Il y a quand même des plaques là qui
C'était bleu, hein. Ouais. C'est violent. Hein.
Pour revenir à notre ami Maillet qui est au téléphone avec nous et qui est sur place, il y a donc un certain nombre de mesures qui ont été prises pour les habitants là.
Exactement, c'est ça. Les gens vont pouvoir rester dans les gymnases ce soir, dans 3 gymnases qui ont été réquisitionnés. Et puis certains vont sûrement être relogés parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans leur maison concrètement. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'expertiser tout ça. Mais on sait que d'ores et déjà, certains bâtiments sont en trop mauvais état. Donc on ne pourra pas rester dans les gymnases indéfiniment. Il faudra reloger ces gens.
C'est le patrimoine de la commune. C'est le patrimoine de la commune qui a été touché quand même, là, dans ce que vous nous dites.
Exactement, mais il y a aussi 2 églises d'ailleurs, donc deux clochers qui menacent de s'effondrer, et notamment une église dont le toit s'est effondré sur la nef carrément. Donc voilà, c'est pas banal, c'est quand même quelque chose ici. Il faut pas imaginer d'énormes paysages de désolation. Attention, quand on arrive au Teil, les gens sont dans la rue parce qu'on leur a conseillé de rester en dehors des habitations, pour l'instant évidemment. Mais c'est que certains quartiers très localisés. Encore une fois, ce sont des vieilles bâtisses. On est en Ardèche avec des vieilles bâtisses, des vieilles fermes, avec des bâtiments en pierre. Encore une fois, voilà ce qui a le plus été dégradé. Pour le reste, encore une fois, ce sont des bâtiments HLM et des bâtiments modernes. Notamment la mairie, l'escalier de la mairie qui a un peu bougé, ce sont des fissures. Ah oui. Mais quand on entre dans la ville, ce n'est pas impressionnant. Il faut rentrer dans les bâtiments pour se rendre compte. Et puis encore une fois, dans ces maisons en pierre, ben là oui, il y a des bâtisses qui n'ont pas résisté.
Merci beaucoup mon cher Lionel Maillet de nous avoir donné les dernières informations après évidemment ce séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter à 10 km de Montélimar et dans plusieurs départements autour où ce séisme a été ressenti à la mi-journée. Allez, dans un instant, premier débat des vraies voix, manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles, semaine sociale chargée pour le pouvoir et cette question. Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? On vous attend, 0826-300-300 et bien sûr les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Et bien pour nos auditeurs votants, c'est clair, c'est non à 88%.
Ah oui, 88%, bah, on s'est élevé quand même. Hein. Oui. Allez, on va en débattre dans un instant dans les vraies voix sur Sud Radio, à tout de suite.
Vraie voix Sud Radio, Christophe Bordet.
Je garantis le maintien de tout.
Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Leur retraite sera préservée.
Rien que des mots.
Parole, Babette.
Pas de perte de pouvoir d'achat. Parole.
C'est ma fête.
Qu'est-ce que tu chantes bien? Vas-y, chante, vois.
Non,
encore des mots, toujours des mots.
Que pour son mari, encore.
Encore pour son mari.
Avec son mari.
Avec son mari, hein. Franchement, moi je suis d'accord.
Ça te dérange.
Mais non, mais on est dans les vraies voies.
On est dans les vraies voies. T'as un jeune type en face de toi, mais qui est costaud.
Qui est, franchement.
Et tu nous embêtes avec ton mari depuis le début de cette émission.
On va le savoir que vous aimez votre mari.
C'est pas tant que ta femme ne t'aime pas.
Mais si, bien sûr.
Bon, alors maintenant qu'ils ont terminé leur petite histoire, on va y aller. Les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière et Philippe Binger de Garnement, franchement.
Insupportable.
Philippe Rossi, c'est ça. Philippe Rossi, Trina, bien évidemment. Le débat des vraies voix, manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles. Ça sera dans une semaine. Semaine sociale chargée pour le pouvoir et cette question. Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? On vous attend 0826-300-300 et sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Et c'est toujours le nom qui l'emporte à 88%. On a Esprit de Serre qui nous dit « Macron a dit qu'il ne changerait pas de politique, donc c'est forcément non ».
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Au téléphone, le politologue Guillaume Bernard est avec nous. Bonsoir Guillaume Bernard.
Bonsoir Philippe.
Non, c'est Christophe, mais c'est pas grave.
Ah,
il y a un Philippe autour de la table. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de Philippe dans l'émission.
J'en suis vraiment désolé.
Je me demande si d'ailleurs, dans les jours qui viennent, je vais pas demander à chacun d'entre vous de vous prénommer Christophe.
Non, alors
comme ça, les choses sont claires.
Mais non, mais on a qu'à nous appeler par notre deuxième prénom. Moi, c'est Maurice, par exemple.
Ah, c'est Maurice.
Maurice.
Vous, c'est Maurice.
Oui, et vous, c'est Joseph.
Ah non, mais Maurice, c'est pas assez beau.
Et moi, c'est Gracieux. gracieuse. Moi, voilà. Grave.
Ah, oui.
Et attention, parce que dans gracieuse, il y a gracieuseté. Alors, avec Binger, il faut faire attention.
Gracieuse, hein. C'est ouais. Vaut mieux Maurice qu'Emmanuel.
Ah, oui, c'est gracieuse.
Ah, oui, vaut mieux Maurice qu'Emmanuel. Ça marche mieux, oui, vous avez raison.
Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup Emmanuel, vous allez le voir.
Oui,
mais
Emmanuel dépend, au féminin, surtout. Hein. En studio, Faouzi Lelouch, dirigeant associatif et gilet jaune à Sevran. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Tiens, on va commencer avec Guillaume Bernard. Plusieurs semaines chargées pour le pouvoir, en réalité. Manif des urgentistes, des gilets jaunes cette semaine, des assistantes maternelles mardi prochain, puis ensuite manif pour le climat, et puis contre la PMA, et puis alors le 5, évidemment, le 5 décembre, voilà. Grève tous azimuts, transport à l'arrêt, etc. Macron risque gros dans les jours et les semaines qui viennent, Guillaume Bernard.
Oui, je crois qu'effectivement, on est dans une situation où il y a une accumulation de mécontentements. Incontestablement, Macron a été élu pour essayer de réformer. Le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il ait essayé au début de son quinquennat d'incarner, je dirais, la puissance, l'autorité, a été plutôt bien vu. Et puis, ça s'est assez rapidement dégradé. Et la manière, je dirais, dont il n'a pas su gérer du tout le mouvement des Gilets jaunes, qui, malgré le fait qu'il se soit quelque peu épuisé, qu'il ait été en partie décrédibilisé par la présence de casseurs, c'est quand même un mouvement qui perdure, et le fait qu'il y ait une accumulation de manifestations pour le premier anniversaire de ce mouvement des Gilets jaunes, ça veut peut-être dire qu'il y aura une renaissance de ce mouvement. La seule chose, évidemment, c'est que pour l'instant, et c'est ce qui préserve évidemment la situation d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de coagulation des luttes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un même et seul mouvement qui viserait à obtenir soit le renversement du gouvernement, soit pourquoi pas aussi, on peut ne pas l'évacuer tout de suite, l'effondrement ou le renversement du régime. Parce qu'il y a une telle défiance vis-à-vis des partis politiques qu'on peut penser que tout cela peut partir très vite, je dirais, dans une direction très grave.
Alors, donc, l'effondrement du régime, c'est vrai qu'on est passé tout près, si je puis dire, au mois de décembre dernier, lorsqu'il y a eu l'attaque, évidemment à l'Arc de Triomphe, c'est ce que l'on a compris très rapidement, ce que l'on a su très rapidement. Le président était absent de France en plus à l'époque, puisqu'il était en Argentine. Ça, c'était il y a un an. Depuis, les choses se sont quand même calmées. Enfin, certes, il y a des manifestations de gilets jaunes, mais c'est pas non plus si extraordinaire que ça.
Oui, mais comme rien n'a changé qui permettrait d'apaiser...
Rien n'a changé, il y a juste 17 milliards d'euros qui ont été débloqués pour les classes moyennes. Alors, si rien n'a changé...
Christophe Bordet, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une incompréhension, une incapacité des Français à avoir une vision claire de la chose. D'un côté, on nous parle, de la rigueur budgétaire, et à la limite, je dirais, c'est même compréhensible par tout le monde. Tout le monde a un budget familial à gérer, et on ne peut pas le faire, en dépensant plus que ce que l'on a véritablement comme revenu. Mais de l'autre côté, vous avez des millions de cartes, de sécurité sociale en fonctionnement qui sont des cartes frauduleuses. Donc, vous comprenez bien que quand on demande aux Français de faire des efforts, je crois que tout le monde est prêt à faire des efforts, à condition de voir concrètement ce à quoi cela aboutit. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que, et c'est ce qui explique la juxtaposition des colères, mais pour l'instant qui ne sont pas encore coagulées, c'est qu'on ne sait pas à quoi sert ces efforts, si ce n'est qu'à colmater des brèches. Et donc, évidemment, il y a une multiplication, des inquiétudes.
On a compris. Faouzi Lelouch est avec nous. J'ai envie de vous demander une question finalement assez simple. C'est un front social qui se prépare ou un front anti-Macron, selon vous ?
Alors, tout ça est parti d'un problème sociétal et des problèmes sociaux dans ce pays, avec une politique sociale qui ne répondait pas du tout aux attentes des Français.
Oui.
Ça a été...
Ça, on l'a compris.
Efforts, je rebondis aussi sur ce qui a été dit.
Oui, non, mais ma question, elle est quand même très claire. Mais front social ou front anti-Macron ?
Non, mais les deux, du coup. Parce que quand on ne répond pas à la sollicitude ou à la doléance des Français, à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse qui soit une contestation en face. Ce mouvement, il n'aurait pas dû durer un an. parce qu'il aurait dû gérer le problème dès le début. Il a jamais répondu, il a méprisé les gens qui ont demandé, et puis voilà, il a...
Il a méprisé avec de l'argent public quand même, hein, 17 milliards d'euros,
mais
c'est pas rien.
Mais c'est une goutte d'eau dans un océan.
C'est une goutte d'eau, mais on le trouve où l'argent alors? Vous allez dire encore qu'on le trouve chez les grands patrons, etc.
Vous vous souvenez pourquoi on est sorti?
Moi je veux bien, mais enfin au bout d'un moment...
Vous vous rappelez pourquoi on est sorti? Parce qu'on disait comme quoi que ce qu'on produisait ne nous permettait plus de pouvoir subvenir à nos besoins et vivre décemment. Vous avez vu en un an, tout a augmenté.
Alors, je suis d'accord avec vous. Attendez, s'il vous plaît.
Et les efforts, on les a fait déjà.
Tout a augmenté,
j'ai
comme
entendu
vous dites.
Tout à l'heure la personne qui a été interviewée là, par radio. Je suis désolé, les efforts, on les a déjà faits. C'est comme les efforts des autoroutes, c'est comme les... On a toujours fait des sacrifices. C'est toujours les mêmes qui font des sacrifices, c'est les travailleurs.
Non, mais quand vous dites tout a augmenté, bon, je veux bien entendre, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont augmenté, je suis d'accord avec vous. Bah, regardez, le prix du carburant aujourd'hui n'est pas beaucoup plus bas que ce qu'il était il y a un an quand les gilets jaunes ont commencé leur action.
Mais par
donc
contre,
ça, je suis d'accord avec
contre,
vous.
Par contre, les taxes qu'ils prennent pour eux, eh ben, elles n'ont pas réduit, alors qu'ils auraient pu baisser.
Les taxes qu'ils prennent pour eux, c'est des taxes qui servent à quoi l'État.
À continuer à entretenir ceux qui utilisent l'argent, on ne sait pas comment, on ne sait pas où il va, on ne sait pas comment il est réparti, il n'y a pas une ligne de conduite, il n'y a rien de cohérent qui fait que depuis le début, on se plaint parce qu'on ne sait pas où va l'argent et on en a encore toujours moins.
Alors Faouzi, et je réponds aussi à Guillaume Bernard, je trouve que le point de vue de Guillaume est un peu pessimiste. Il y a une multitude de revendications catégorielles. Le président va avoir du mal à les satisfaire, d'autant plus qu'il faudrait aussi que de l'autre côté, on accepte aussi l'idée qu'il pourrait les satisfaire. Mais techniquement, il est dans un étau, le président. Je vais dire pourquoi. Ouais. Il veut éviter absolument la coagulation de ses revendications. Donc, il est obligé de les traiter distinctement. Mais alors, on lui reproche de ne pas appréhender la France dans sa plénitude, et c'est un gros problème.
Il a fait quoi en un an ?
Et il a fait beaucoup. Non, mais Faouzi, laissons le discours. Acceptons une minute de penser librement et contre
allons-y.
Nous-mêmes.
Il n'y a aucun problème.
Au lieu de sortir des leçons. Vous comprenez ? Moi, je crois que ça va être très difficile pour le président de répondre aux défis parce qu'il est condamné à tenter d'y répondre distinctement et on lui reprochera de ne pas appréhender l'ensemble des problèmes.
Ouais. Alors, si je peux ajouter un tout petit mot, deux choses. Premièrement, le mouvement des Gilets jaunes est apparu hors parti, hors syndicat. C'est fondamental à comprendre que de ce point de vue-là, c'est un mouvement social qui n'utilise pas les canaux traditionnels et qui donc effectivement peut renaître du jour au lendemain sans qu'il y ait de mot d'ordre. Donc ça, c'est un élément absolument essentiel. Et c'est un mouvement qui est né dans le but de dire on ne demande pas, on ne quémande pas forcément de l'argent, alors que l'exécutif a toujours la même rengaine, la même habitude, je dirais, de distribuer de l'argent, alors qu'en fait ce n'est pas un mouvement qui demandait de l'argent. C'était un mouvement qui demandait de pouvoir vivre dignement de son travail. C'était des Français qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui veulent...
Et qui voulaient être moins taxés, en fait, c'est ça. Hein.
Mais pas que ça,
notamment. Il y a un deuxième élément aussi. C'est que je crois que les Français... Les Français, je crois, sont parfaitement prêts à des sacrifices. Sont parfaitement prêts à comprendre que
on les a fait déjà, les sacrifices, depuis des années.
Mais encore faut-il savoir à quoi servent ces sacrifices. Qui fait ces sacrifices? Dans quel objectif? C'est-à-dire qu'on augmente...
Bah, vous avez le même discours que Faouzi.
Dans le but d'obtenir une augmentation de l'activité ou dans le but de favoriser la formation professionnelle, etc. Or là, en fait, on a une juxtaposition de mesurettes prises les unes après les autres qui ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une juxtaposition des différentes
d'ensemble
critiques.
Et d'avenir.
Voilà.
Ouais. D'ensemble Faouzi, et d'avenir.
Ouais, Faouzi, quand même, le président a été élu, on le disait tout à l'heure, sur les réformes. Et aujourd'hui, au moment de réformer, je pense évidemment aux retraites, hein, bah, il faudrait qu'il ne réforme pas, en fait. C'est un peu ça l'idée, quand même.
Ah non, mais là, c'est un raccourci.
je pose une question simple, justement. Tout le monde se dit la même chose.
Voilà, vous avez travaillé toute votre vie. Combien vous allez toucher à la fin que vous aurez cotisé toute votre vie? Eh ben, il n'y a aucune réponse.
Peut-être pas grand-chose.
Personne n'est capable de
d'autant
vous le dire.
D'autant plus qu'on cotise
avant lui,
Mais c'est pareil.
Avant la Macron, il n'y avait aucune réponse.
Non, mais c'est une continuité. C'est pas propre à plusieurs gouvernements qui se sont succédés. On a pensé que ça allait s'améliorer. ça va tout vers la baisse et il n'y a rien qui va vers le haut.
Quand vous dites, Fauzi, vous allez cotiser sans savoir ce que vous aurez demain comme retraite, etc.,
oui,
c'est très bien, mais je vous rappelle qu'on cotise pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Hein.
Oui, d'accord.
Oui, on ne finance pas nos retraites, on finance celles de ceux qui sont à la retraite.
Et vous allez comment le jour où vous ne pourrez plus aller travailler parce que
on ne sait pas derrière, effectivement, s'il y aura assez de monde pour cotiser ou pas.
Une personne quand elle a 60 ans, 70 ans, elle est affaiblie. Elle n'a plus la capacité et les moyens de pouvoir changer la donne parce qu'elle est fatiguée, elle a donné toute sa vie. Il y a des gens qui ont contribué, cotisé toute leur vie, qui ont produit, qui ont construit ce qu'il y a aujourd'hui, dont les acquis sociaux qu'on est en train de voir à la baisse tout le temps. Et il n'y a jamais une fois où j'ai vu quelque chose s'améliorer, aller vers le haut. Et c'est pas possible. C'est comment vous voulez encourager un pays et essayer de le ramener une dynamique dans un pays quand tous les jours vous apercevez que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté. Et la logique même, moi je ne suis pas un politicien, mais je vois bien que ça va pas. Et tout le monde le voit. Et d'ailleurs, dans les sondages, les gens le comprenaient. Parce que chacun dans leur parti, dans leur classe sociale, selon les territoires où ils étaient, eh ben, ils subissaient la même chose. Et c'est ça, c'est toutes ces différences de classe sociale et de différences qui a réuni ce mouvement et qui font qu'aujourd'hui, on est tous d'accord sur le même principe. On veut vivre dignement des fruits de ce qu'on a travaillé.
J'ai quand même un doute sur une chose, et puis on va poursuivre le débat, bien évidemment. Oui. Quand je vous entends, j'entends derrière la petite musique égalité, égalité, égalité. J'ai un doute sur le fait qu'un jour, dans ce pays, comme dans la plupart des autres pays, il y ait l'égalité.
Mais
ça,
moi,
je n'y crois pas un seul instant.
Bah, on combat toutes les inégalités, là. Il y en a beaucoup, quand même. Il n'y a pas besoin Moi, je dis, regardez les personnels soignants. Regardez le service de soins. Quelque chose où on est fier de dire, voilà, on peut être soigné, on peut être pris en charge. Eh ben, il n'y a plus la capacité de pouvoir accueillir les patients. Ils travaillent dans des conditions qui sont très difficiles. C'est devenu des usines. Les gens, on les pousse à bout à remplacer des gens qui sont plus présents, qui sont fatigués. Il y a des suicides, des gens dépressifs dans les personnels soignants. Et puis, c'est saturé. Vous avez des problématiques de réception avec des médecins. Problèmes pour pouvoir se soigner. Les yeux, on parlait des yeux la dernière fois. Tout ce qui est dentaire, c'est compliqué. Moi, je me suis vu, même moi, c'est pas pour me faire plaindre, mais je suis sûr que beaucoup s'est retrouvé dans ce cas à pas pouvoir payer une consultation. Allez, et pas y aller parce que j'avais pas de quoi l'avancer.
On va poursuivre le débat dans un instant avec vous, Fauzi, bien évidemment, et avec Guillaume Bernard. Manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles, semaine sociale chargée pour le pouvoir. Et cette question, Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina.
Mais le débat a encore fait bouger les votes puisqu'on est passé de 88 à 90% d'auditeurs qui pensent que Macron ne peut plus calmer la colère.
Fauzi et Guillaume Bernard.
Sur Sud Radio.
Fauzi et Guillaume Bernard marquent des points, les amis. Allez, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Et le débat continue, chers amis. Et oui, les vraies voix sur Sud Radio. Manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles. Semaine sociale chargée pour le pouvoir. Et cette question, Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Trina.
C'est toujours le nom qui l'emporte à 90%. On a Mustweb qui nous dit une répression illégale et violente contre la population française depuis 12 mois. Macron doit partir, c'est la seule solution pour apaiser les Français.
Au téléphone, le politologue Guillaume Bernard et en studio, Fauzi Lelouch, dirigeant associatif et gilet jaune à Sevran. Tiens, Fauzi, une question.
Oui.
La convergence des luttes, allez, est-ce que c'est votre souhait? Là, je pense bien sûr à la manifestation du 5 décembre prochain, où on aura les syndicats d'un certain nombre de secteurs, et notamment les transports, puisqu'on nous a annoncé pas de métro, pas de RER, pas de TER, etc. etc.
Ça va arranger les choses.
Est-ce qu'il faut qu'il y ait cette...
Pas ça.
Ben oui.
Il faut qu'il y ait cette convergence des luttes ou pas?
Alors, je dis que depuis un an, on a attendu que les syndicats, les responsables syndicats, nous rejoignent. On a bien assisté à quelques manifestations sur les retraites ou quoi. Bon, on était devant, on était la chair à canon. J'ai vu comment ça s'est passé. Et puis, on a été ignorés. Donc, aujourd'hui, on a un rendez-vous qui est le 16 et le 17. Alors, moi, j'ai fait un appel. J'ai dit, si les leaders syndicats n'appelle pas à nous rejoindre le 16 et le 17, qui compte pas sur nous pour qu'on aille rejoindre le 5 pour aller tout bloquer. Parce que déjà, je comprends pas.
Alors,
qu'on
moi,
bloque.
Je comprends pas parce que l'autre jour à Montpellier, les Gilets jaunes se sont rassemblés, ils étaient 600.
Oui, et 600,
ils ont voté pour rejoindre 600. Les syndicats le 5 décembre.
Une partie,
et vous, vous dites non, on n'y va pas.
Mais parce qu'on pense pas tous la même chose. Et puis, honnêtement, les 600, ils représentent pas la totalité. Ce que je suis en train de vous dire, simplement, ce que moi, ça, c'est ma pensée et un petit groupe qui est autour de moi. Je dis que le boulot, on l'a fait pendant un an. Les syndicats, pour moi, ils étaient plus légitimes. En un an de temps, franchement, et puis depuis des années, les syndiqués, les pauvres, ça fait longtemps qu'ils attendent qu'il y ait des avancées sociales et professionnelles, aussi bien sur les salaires que dans leur quotidien. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait le boulot. Aujourd'hui, on les a invités pendant un an, on a montré l'exemple. C'est nous, les citoyens, qui avons dû sortir pour montrer l'exemple et on a montré la voie. Aujourd'hui, qui ne s'attendent pas que nous, on va tout bloquer le 5, juste pour qu'à la fin, ça soit eux qui négocient et qu'ils arrivent à des avancées, qu'on leur donne une légitimité pour 10 ou 15 ans. Je suis désolé, mais on ne peut pas se servir des gens qui ont servi de chair à canon pendant un an. Et puis, moi, je vais vous dire autre chose. Pourquoi bloquer ? Pourquoi pas faire les transports gratuits, la SNCF gratuit, les transports, vous faites votre grève, vous le lancez, ne prenez pas la carte orange, tout va être gratuit, tout va être ouvert. Vous pensez pas que vous allez prendre le cœur des gens à ce moment-là, vous allez les aider dans leur pouvoir d'achat?
En tout cas, là où je suis d'accord avec vous,
pourquoi on emmerde les gens encore à qui ne puissent pas gagner leur vie? Ils ont du mal à, ne serait-ce qu'à se passer d'une journée de travail pour remplir leur frigo, ils y arrivent pas. Ils sont endettés, surendettés à tout ce qu'ils ont en charge. Aujourd'hui, ils vous disent, ils y arrivent pas et vous allez les empêcher d'aller travailler. Ouais. Débloquer la situation. Faites les transports gratuits. Nous, on a bien fait les péages gratuits. Vous croyez quoi ? Au risque de prendre même, de se faire arrêter, d'avoir des amendes.
Ouais, Guillaume Bernard, cette convergence des luttes, elle est mal partie, selon vous ?
Il y en a qui la suivront, de toute façon.
Il n'est plus là, Guillaume Bernard ? Bon, Guillaume Bernard s'est éclipsé. Il est parti, comme ça, d'un coup, d'un seul. C'est pas très grave. Mon cher Philippe,
je voulais
Philippe
rebondir
aussi.
Sur ce que disait Faouzi Lelouch.
Il est parfaitement représenté par Faouzi.
Et il demandait, Faouzi Lelouch, à la RATP, à la SNCF, de faire plutôt les transports en commun gratuits, plutôt que, je le cite, d'emmerder les gens pendant qu'ils vont travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait, les gilets jaunes, pendant des semaines et des semaines le samedi ?
Eh ben, on n'a emmerdé personne.
Si, vous avez emmerdé les gens.
Mais toute la semaine, vous pouviez faire vos courses.
Oui,
il
n'y
a que le samedi.
Le samedi, c'est les gens où.
Oui, mais c'est
le jour où les gens peuvent faire leurs courses.
C'est un secteur géographique qui nous
rue. Ce que je veux dire,
on a pas bloqué le pays.
Attendez,
on a bloqué
des
villes.
Mais si, vous avez les samedis, vous avez bloqué le pays. Les gens ne pouvaient pas faire leurs courses. Les gens ne pouvaient pas attendre.
Qui nous parler. Non, mais juste. Non, qui nous a représenté
attendez,
jusqu'à maintenant?
Laissez-moi
pourquoi
finir mon raisonnement. Laissez-moi finir.
J'écoute.
Ce que je veux dire,
rapidement.
Oui, c'est que voilà, vous avez bloqué le pays tous les samedis. En dehors des courses, il y a des gens qui ne voulaient plus sortir parce qu'ils avaient peur des black blocs, par exemple. Voilà. Donc la RATP, c'est très bien que s'ils emmerdent les gens, et ben c'est ce qui fera reculer le gouvernement.
Les black blocs,
c'est juste ça que je voulais vous dire.
D'ailleurs, vous avez obtenu un certain nombre de choses parce qu'il y a eu des violences. Il n'y aurait pas eu de violences.
Exactement.
Vous n'auriez rien obtenu. Hein. Les 17 milliards, vous les auriez
vous pas
vus.
On a essayé de contenir pendant longtemps la violence.
Dit,
c'est violent,
violence,
la société est
tellement malheureusement.
Vous savez,
tu l'as bien vu comme
tout le monde. Les gilets jaunes y ont mis du leurre, mon cher Faouzi.
Ah, mais vous savez,
dans la violence.
Eh, vous savez aussi, on a souffert. Regardez tous les mutilés qu'on a, tous les condamnés qu'on a, tous les blessés qu'on a, tous les incarcérés qu'on a.
Combien s'en sont pris à la police ?
Histoire, il y a eu ça.
Combien de
police sont... Je vais vous dire, on a des graves, graves blessés, on
bien
a
sûr.
Des morts même.
Bien
on
sûr.
A des tués.
Non, non.
Si, si. Non, il n'y a pas eu de mort.
La police
n'a pas tué des gilets jaunes.
Ah, Steve, il n'est pas mort ?
Non, on parle des gilets jaunes, on ne parle pas de manifestations qui ont lieu en dehors des gilets jaunes. Je vous parle des gilets jaunes.
Dans les manifestations, il y a des gens qui ont perdu la vie.
Quand même, hein.
Alors, peut-être pas en direct.
Il y a des gens qui ont été écrasés à un moment par un camion au début du mouvement sur un rond-point, ce qui n'a rien à voir avec les policiers qui auraient tiré sur les manifestants.
Vous pensez que c'est rien de perdre la vue, de perdre un œil ?
Je ne vous dis pas que c'est rien, je vous dis que ça n'est pas la même chose.
Mais c'est quand même quelque chose.
Je suis d'accord avec vous.
Moi, je ne les ai pas vus, moi, les policiers qui arrivent et qui ont perdu des yeux.
Mais
quand
vous
dites
en face, vous n'aviez
En
face, vous n'aviez pas des agneaux.
On avait,
durant tous les samedis, les policiers ont été harcelés.
Depuis
des
années, depuis des mois, on a des gouvernants, on a un président qui répond pas aux citoyens. Voilà pourquoi on est sorti.
Mais non,
on n'a pas eu d'autre choix que de sortir parce que il y a personne qui nous représente aujourd'hui.
Ce que vous appelez répondre
aux
citoyens, c'est se coucher devant vous.
Il y a le vrai débat aussi avec 59 propositions, 1,5 million de personnes ont voté, 25 000 propositions, dont 59 des tops qui ont été répondus. Je peux vous dire, vous changez deux ou trois déjà des 59 propositions, la vie va mieux. ne serait-ce que le vote blanc, le vote nul. Il y en a des choses. Le RIC, vous parliez du RIC.
Ça, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur le RIC. Pas au départ. Hein.
Eh ben, il est venu, mais par contre, il existe déjà dans d'autres pays. Pourquoi on en a peur ici? Parce que ça enlève une légitimité, un peu de pouvoir à ceux qui nous gouvernent.
La France n'a jamais aimé les référendums.
Oui, mais ils n'aiment pas ça. Ben, surtout, vous savez, vous vous rappelez le dernier, c'était quand? Ouais. C'était l'Europe. Ouais. Ils ont été entendus, bien les citoyens?
Non, non.
Ben, mais c'était une grosse magouille encore une fois. Donc, il arrive un moment, un peu de démocratie, un peu de liberté, et on se bat pour ça.
Allez,
on se bat pour nos droits.
Le mot de la fin à notre ami Guillaume Bernard qui a retrouvé son téléphone.
Il est revenu.
Oui, il est revenu. Alors, attendez, parce que Guillaume Bernard, il parle beaucoup. Donc là, il va falloir qu'il fasse un effort. 30 secondes pour terminer.
Fauzi a tout dit.
30 secondes pour terminer. Convergence des luttes ou pas, à votre avis, le 5 décembre prochain?
Je crains malheureusement pour la lutte sociale qu'elle n'arrive pas parce qu'il y a des demandes qui sont contradictoires. Quand la SNCF demande à sauver d'une certaine manière son régime spécial de retraite et qui va à l'encontre de la protection du régime général qui le finance, évidemment, il ne pourra pas y avoir une véritable coalition des luttes. En revanche, il est tout à fait certain que, puisque la classe politique est décrédibilisée, il y a tout à fait la possibilité qu'émerge à nouveau un mouvement de type gilet jaune, ou portant un autre nom, qui soit capable de défendre le bien commun. Et cela, aucun gouvernement dans les mois à venir n'est à l'abri de la renaissance d'un mouvement fort de ce type.
Allez, merci beaucoup Guillaume Bernard d'avoir été concis. Oh, bah, il a fait un effort. Hein.
Ah,
alors
il
là, bravo hein, Guillaume, hein, franchement, impeccable. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Le résultat de notre débat,
91.
C'est parti. On n'a pas une petite musique aujourd'hui? Non, on n'a pas de musique. Non, mais DJ Riette, on l'appelle DJ Riette parce qu'il est du monde. Ouais. Mais alors là, il a les mains dans les rillettes, là, visiblement. Manif des urgentistes, des gilets jaunes, des assistantes maternelles, semaine sociale chargée pour le pouvoir à cette question. Emmanuel Macron peut-il encore répondre à la colère? Les réseaux sociaux, Trina, ça donne quoi?
Mais résultat définitif, c'est non à 90%.
Eh bien voilà, allez, chers amis, dans un instant, le journal Les Infos de 18h.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio n'aiment pas le communautarisme, c'est pas leur tasse de thé du tout. Babette de Rosière, Maxime Thiébaut qui vient de remplacer Philippe Binger, parce que Philippe Binger avait autre chose à faire en plus aujourd'hui.
Enfin un peu de jeunesse.
Enfin un peu de jeunesse.
Voilà. Comment vouloir.
Ouais. Je pense que là, il va se venger.
Non, j'oserais pas.
Remarquez, ça peut vous faire du bien, Babette, un petit jeune, ça change de tous ces vieux qui vous entourent. Hein.
Oh, moi j'aime bien les vieux.
Amitié à votre mari.
Les vieux ont du coffre, ils ont de l'expérience.
C'est bien les jeunes carottes.
Non. Et puis.
Ils vendent mou.
Ouais. Oh vieux, là, déjà. Là, mais alors vraiment, ça dérape ici. Est-ce que je viens la prochaine fois ici ou pas?
Bah oui, il faut toujours venir.
Vu le prix
que
c'est payé, tu vas venir de toute façon. Ah, c'est sûr.
Alors c'est pas l'argent qui me fait courir. Alors c'est pas l'argent qui me fait courir. Là, t'as tout faux.
Philippe Rossier est là, Trina, et bien sûr DJ Thibaut de la Sarthe, que l'on surnomme affectueusement évidemment DJ Riette.
J'ai tout rêvé d'être Harrison Ford.
Oh, un peu de tendresse, bordel.
Mais non, mon petit pot catalytique, c'est scandaleux.
Je ne la comprends pas. Je la trouve, mais vraiment lamentable.
Bah, c'est sûr que le monde n'est pas doux. Hein.
C'est délicat.
Excellent, c'est fait, c'est évacué, on n'en parle plus. Voilà,
c'est évacué,
on n'en parle plus. Voilà. Il est fort, hein, DJ Riette, quand même, moi je trouve. Hein. Vous le trouvez bon ou pas, vous?
Il mange beaucoup de Riette.
Ah, il mange que ça.
C'est bon pour la santé.
Oui. Il mange que ça, c'est pour ça qu'il fait 1m60.
Chers amis,
l'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Réunion demain au ministère de. Il est un peu en retard.
Oui, bah c'est la rillette.
Il y a un problème, il est un peu à la bourre. Quoi. On commence le débat et la musique arrive 8 jours après, voyez-vous. Enfin, bref. L'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, réunion demain au ministère, justement avec plusieurs leaders de la droite notamment. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Et cette question, faut-il interdire les listes communautaires en France? On vous attend au 0826-300-300. On débattra de tout ça à 18h30 dans quelques minutes maintenant, mais avant, c'est le fameux tour de table de l'actualité.
Tu sais à quoi je pense?
Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul.
Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense.
Le tour de table
de l'actualité.
Babette de Rosière.
Oui.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Non, rien. Alors, chaque année, depuis 88 ans, la ville d'Alba, dans le Piémont, accueille, figurez-vous, pendant, oui. pendant deux mois, oui. une grande foire à la truffe blanche.
Ah, c'est bon les truffes.
Et cette année, c'est dimanche, pas la portée de tout le monde, hein, mais... dimanche dernier, il y a une truffe blanche qui a pesé 1 kilo, qui a été vendue aux enchères 120 000 euros.
Ah oui, 120 000 euros quand
120 000 euros.
Combien de kilos tu as dit?
1 kilo. Lorsque l'on sait qu'un kilo normal de 100 grammes, c'est 375 euros. Ils ont fait une économie, c'est 120 euros le gramme. Et maintenant, ce qui me plaît dans cette affaire-là, c'est que l'argent, l'économie qu'ils feront de ça, il ira à, je vais vous dire... à aider les enfants sans famille, aux jeunes mères en difficulté, au centre de Boscou spécialisé dans la recherche des cancers pour les enfants. Ça, ça me plaît beaucoup, cette idée-là.
Bah, au moins, l'argent sert à quelque chose, là, pour le coup.
Bah, hein, oui, ça sert à quelque chose.
C'est juste un kilo. C'est voilà. une très bonne initiative.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien de faire ça.
Oui. Vous servez de la truffe, vous, à Noël, dans votre restaurant des Yvelines ?
Non, pas du tout, c'est pas ma spécialité.
Mais pas de truffe, vous, avec le bout d'antillé, tout ça ?
Non, mais je peux en mettre dans la purée d'igname. Ah, est-ce que tu sais ce que c'est?
Ben oui,
c'est ce que c'est.
C'est ce légume.
Ah hein ben oui, mais tu connais. Hein,
ben oui.
C'est bien. Moi, eh ben tu vois, c'est une bonne œuvre. Moi, j'ai adoré
déjà
ça. Mis,
enfin, on en a déjà mangé, je veux dire.
Oui, ben digne. Oh là là.
Quoi?
Oh là là, qu'est-ce que t'es en forme aujourd'hui? Ah ben t'es choquée, toi. Ah ben t'as rien dans ton
sens. Ça arrive bien.
Entre nous, elle est choquée par pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que ça correspond à Noël. Tout ça, tiens, la période de Noël, vous aussi, ça vous plaît ou ça vous gonfle?
Ah, moi, j'adore la période de Noël. Bon, bah oui, parce que tout le monde est content, tout le monde est détendu, tout le monde s'aime, tout le monde se dit joyeux Noël. Non, franchement, c'est 10 jours
et puis
de détente.
On s'embrasse,
Noël.
Et puis après, on se cogne dessus.
Il y a des boules, des guirlandes,
le sapin,
les
boules.
Moi, j'ai pas de sapin, moi.
Et la dinde est malheureuse.
Il y a pas de sapin.
Il y a pas de sapin chez vous?
Non, c'est le filao.
C'est quoi le filao?
Parce que c'est pas notre culture, mais enfin, franchement.
Mais votre culture, c'est la culture de France.
Ma culture, c'est la culture de France. Mais chez nous, aux Antilles, ma culture est créole aussi.
Chez vous, c'est la France.
Et c'est le Figaro. Oui, mais je sais. Mais nous avons nos coutumes et nos us. Je suis d'accord avec vous, la France est notre culture.
Mais il y a des boules dans le filao.
Mais il y a, oui, on met des boules dans le filao.
Mais c'est quoi le filao?
Je ne sais pas, mais je voulais savoir
si tu vas regarder ton dictionnaire, tu sauras ce que c'est. Et puis si tu vas aux Antilles, demande ce que c'est que le filao.
Ben
nous, Noël, c'est le filao. C'est beau comme nom, non?
Oui, c'est très joli, mais on ne comprend pas ce que c'est. Mais
une
enfin,
branche
c'est pas
de filao, c'est comme une branche de conifère, mais qui est très volatile, voilà, très légère, très aérienne. Voilà, c'est ça, exactement.
Ah. D'originaire d'Asie du Sud-Est
et d'Australie. Et c'est très, très beau. Et c'est très, très beau.
Il a migré.
Voilà.
Et donc, on peut lui mettre des boules.
J'ai la culture du sapin et j'ai la culture du filao.
On peut lui mettre des boules, donc.
On peut lui mettre des boules. C'est le mot boule qui te plaît. Hein.
Non, non. Bah, dis pourquoi tu dis ça.
Parce qu'il aime bien le mot guirlande aussi.
Ah, il aime le mot guirlande.
Moi, j'adore les guirlandes.
Mais tu l'as pas dit.
J'adore toutes ces guirlandes fabriquées en Chine là, qui arrivent sur le marché français à Noël.
Moi, je mets pas de sapin chez moi.
Non, vous mettez pas de sapin, pas de décoration, rien du tout.
J'aime pas ça.
Pourtant, une guirlande électrique, vous, ça vous irait bien.
Ah bon?
Oui,
parce que...
autour du cou.
Ah oui?
Oui.
Eh ben, je vais essayer, il faut me l'offrir.
Avec une peau de bête.
Toi, tu t'y mets, toi aussi? Tu vois le petit cimet?
Avec une peau de reine.
Ben, pourquoi pas? Ben, tu sais, autrefois, les hommes, quand ils étaient dans la neige,
dans la grotte,
il n'y avait rien. Et dans la grotte, qu'est-ce qu'ils mettaient? Des peaux de bête.
Mais oui. Et puis, ils mangeaient sûrement des truffes aussi. Hein,
oui. Ah ben, sans doute.
Pas si cher.
Ils devaient les déterrer.
À l'époque, c'était pas le même prix.
Oui. C'était pas le même prix. Bon, chers amis, on se retrouve dans un instant dans les vraies voies pour la suite du tour de table. Bien évidemment. Et cette question, l'union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, réunion demain au ministère avec plusieurs leaders de la droite. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Question, faut-il interdire les listes communautaires en France? On vous attend 0826 300 300. A tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio pendant que Babette tripote le petit. Oui, le petit est beau qui nous a rejoint. Bravo, bravo, ah, c'est du propre. Non mais c'est du propre. Non. C'est mou. Ah bah si c'est mou, alors on s'en fout.
Il y a que les bras.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec la suite de notre tour de table. Dans quelques minutes, Laurent Perrondet, maire de Lacanau, sera d'ailleurs avec nous, tiens, au téléphone. On parlera avec lui de cette cocaïne retrouvée sur la plage. Ça vaut le coup d'aller à Lacanau en ce moment.
Ah oui, ça,
hein.
J'avoue, oui.
Bon, je te donne un conseil, invite Monsieur Nègre.
Ah, et Monsieur Nègre, ah ouais, c'est qui, Monsieur Nègre? Ah, c'est le monsieur dont vous parliez tout à l'heure, là, le haut fonctionnaire du ministère de la Culture.
Christian N, mais il s'appelle Christian Nègre.
D'accord. Bon, voilà. Il était haut fonctionnaire au ministère de la
Culture. Mmh.
Absolument. Il travaillait à l'égalité des droits entre les femmes
entre
les hommes et les femmes. Voilà. Et donc,
il
mettait un peu de diurétique
dans
les verres des dames qui venaient visiter.
Et il regardait les femmes, justement, faire pipi, prenait son pied, faisait des photos. Et même
quel horrible personnage. Quel horrible personnage, les amis. Bon.
Alors, on ne veut pas nommer son nom, mais il s'appelle Christian Nègre.
Maxime Thiébaud, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans l'actualité ?
Le 11 novembre. Tout simplement,
c'est original.
C'est original.
Oui.
Non, et notamment avec tout ce qu'on entend sur la jeunesse, sur les manifestations de ce week-end. Je pensais ce matin à ces enfants qui étaient en randonnion du service national universel. Et je me disais que c'est une bonne solution pour créer de la cohésion, c'est-à-dire de faire un vrai service national avec tous les jeunes Français de 16 à 25 ans et de les confronter ensemble pendant 15 jours, 3 semaines, de créer une cohésion, de faire des épreuves
sportives. Vous trouvez que ça suffit, 3 semaines
Ah, c'est utile. Moi, j'ai organisé, vous savez, on fait des préparations militaires gendarmerie pour les réservistes. Et dans la réserve, on reçoit des jeunes, au bout de 15 jours ils sont changés.
Parce que vous êtes gendarme de réserve.
Je suis gendarme de réserve, j'ai encadré des PMG, des préparations militaires, et c'est vrai qu'en 15 jours on voit les mentalités changer, quand vous faites des marches de nuit, quand vous faites du sport en commun, quand vous êtes dans la difficulté. Et si on pouvait créer cela en mettant le jeune du 7e arrondissement, être le gamin de banlieue et puis le gamin de la campagne, je suis convaincu qu'on peut créer de belles choses. Et ce matin j'étais un peu ému par cette image de ces gamins de 15-16 ans qui étaient en randonnion devant le soldat inconnu mort il y a plus de 100 ans, et je pense que c'est un vrai lien, et face à toute la division, et puis le débat qu'on va avoir tout à l'heure sur les manifestations, je pense que c'est un beau message, être un peu positif en ce 11 novembre, voilà, à travers le service national universel, ça peut être une excellente solution.
Philippe Rossi, vous ne croyez pas qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent même pas ce qu'est le 11 novembre ?
Mais bien sûr, mais la majorité des jeunes aujourd'hui ne savent pas ce qu'est le 11 novembre, mais malheureusement, même le 8 mai 1945,
oui,
par exemple, voilà toutes ces
dates.
Malheureusement, je pense que ce qu'il y avait de bien dans le service militaire il y a quelques années, c'est que les gens qui ne l'étaient pas vraiment se sentaient tout à coup patriotes. Et je pense que, alors peut-être avec le service universel, et effectivement, je suis d'accord avec Christophe, 3 semaines, c'est trop peu. Mais si le service universel durait au moins, ne serait-ce que 4-5 mois,
Je pense
que beaucoup de jeunes se sentiraient beaucoup plus français qu'ils ne le sont
actuellement. Après, ça a un coût pour les finances de l'État.
Oui, mais alors toute la délinquance derrière et tout ce qu'on connaît,
un coût
on pourrait y résoudre finalement. Parce que imaginez des gens remis dans un axe, en plus on pourrait déceler l'alphabétisme, les problèmes de santé, on pourrait remettre des jeunes dans le droit chemin, les problèmes psychologiques, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait régler en mettant des gamins ensemble pendant 3, 4, 5, 6 mois.
Voyez,
c'était ça le service militaire, c'était très bien.
Quand même. Parce que tout à l'heure, vous critiquiez les muscles de Maxime en disant c'est tout mou. Vous avez un gendarme à côté de vous.
Mais alors
tous les gendarmes ne sont pas musclés,
protéger,
la preuve.
Il est là pour
je
me protéger.
Je vous protégerai toujours.
Ah, c'est gentil.
Oh,
alors voilà, prends ça pour toi, Christophe.
Evelyn.
Tu vois
Evelyn,
voilà.
Evelyn.
Voilà.
Ouais.
Non, mais au moins, il est gentil avec moi.
Je suis amoureux ce soir.
Ah oui. Si son mari entend ça, il va devenir fou. Il va débarquer dans le studio,
vous
il va lui
casser
la gueule.
Sa peau de bête.
Pas pour le moment.
Elle les fait tous craquer.
On vous donne l'autorisation, vous pouvez caresser sa peau de bête.
Tu les fais tous craquer.
Ah bah écoute, je suis sage, hein, je provoque pas. Hein.
Non, pas du tout. Tout à l'heure, ses yeux, ses lèvres et tout le tralala.
Oh là là,
mon
Dieu,
elle a tripoté tout à l'heure.
Au revoir.
Mais non, reste
demain,
avec nous.
Demain.
Allez, Philippe
Rossi. Moi, j'aimerais vous montrer une photo puisque nous sommes en Facebook Live. C'est Greta Thunberg. Est-ce qu'elle vous fait peur autour de la table, cette photo?
Elle a l'air pas commode et un peu malade.
Elle est pas contente sur cette photo.
Mine, quoi.
Figurez-vous que dans les entreprises israéliennes, dans les cantines, là où il y a les gobelets en plastique, on met maintenant cette photo, une photo de Greta Thunberg qui veut dire mais comment osez-vous prendre des gobelets en plastique et coup eh bien les salariés israéliens en voyant cette photo se disent elle a peut-être pas tort peut-être qu'il faudrait pas que je prenne des gobelets en plastique. Et bien figurez-vous que depuis qu'ils font ça depuis quelques mois et bien il y a de moins en moins de salariés qui se servent dans les gobelets en plastique.
C'est fou,
incroyable,
c'est
fou, grâce à Greta Thunberg. Et il faut dire que malheureusement Israël est le mauvais élève de l'écologie dans la région. Israël est dans le top 3 de ceux qui déversent le plus de déchets dans la mer Méditerranée. Un citoyen israélien lambda produirait plus du double de la moyenne internationale de plastique par jour.
Mais grâce faire ça dans les cantines françaises.
Oui,
hein,
mais grâce à Greta
la photo
Thunberg,
de Greta.
Grâce à Greta, eh bien voilà, plus
mais
de plastique en Israël.
Tu penses qu'ils font pareil en France?
Oui.
Non, je pense que ça ferait peur personne en France, la photo. Enfin, moi, ça me ferait pas peur, personnellement.
Hein. Dans
moi,
les
je
sais
pas. Non, je parle d'utilisation.
En tout cas, je vais vous dire, quand je vois la photo que vous nous avez montrée, que vous pouvez remontrer, je sais pas si on la voit sur le Facebook Live ou pas, mais quand je vois la photo de Greta, là, telle qu'elle est là, moi, ça me donne envie de vomir. Mais, chacun son truc, hein.
Fais voir un peu la photo de près.
Non, ça fait pas rêver, franchement.
Il y a un côté exorciste.
Oui, il y a un côté exorciste.
Oui,
il y a
la
poupée de Chucky aussi.
Poupée de Chucky.
Mais regarde, hein.
Tu veux jouer avec moi.
Tiens, c'est une copine pour toi.
Non, ça va,
j'ai peur de faire des cauchemars. Mais non, elle est une petite jeune à la 16 ans. Qu'est-ce que j'ai dit,
non, moi, voyons.
On ne peut pas dire des choses pareilles. C'est scandaleux, franchement. C'est une honte absolue.
Ah, bah oui.
C'est une honte absolue. Non, en tout cas, bon, elle a le mérite. Elle a un mérite. Cette jeune fille, c'est que au moins elle a mis sur la place publique un certain nombre de sujets liés à l'écologie, voilà, dont on ne peut plus maintenant dire qu'on ne les connaît pas. Voilà, c'est une réalité. Voilà, c'est une vraie opportunité qu'elle a eue et je trouve qu'elle a bien fait quand même sur ce plan-là. Allez, notre tour de table se poursuit dans nos belles régions de France.
Ne touchez pas.
Sud Radio, le buzz des régions.
Allez, on va être sérieux 5 minutes. Laurent Perrondet, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Lacanau, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Des dizaines de kilos de cocaïne retrouvés sur les plages atlantiques et notamment chez vous à Lacanau. Dites-nous ce qui a été retrouvé exactement chez vous.
Alors là, dans les dernières 24 heures, sur une bande littorale de 100 km, c'est à peu près 80 kilos. Donc c'est quand même des quantités importantes. Donc on fait tout pour que les gens ne descendent pas sur la plage pour ne pas perturber les travaux des services de gendarmerie et de la douane.
Mais ça veut dire quoi qu'il y a des gendarmes en permanence sur la plage en ce moment qui se baladent?
Ils ont fait des
patrouilles. Après, le littoral il est tellement immense que c'est difficile d'empêcher l'accès à la plage. Au moins sur les parties urbaines et les accès plages, on essaie de les interdire et puis de prévenir que ça peut coûter très cher de remonter un colis ou même de le ramener à la gendarmerie. Il faut absolument appeler la gendarmerie avant de toucher à quoi que ce soit.
D'où viennent ces colis de drogue, de cocaïne?
Bon, ben là, les premières, ça a été ou quelqu'un qui s'est renversé ou quelqu'un qui s'est débarrassé de sa cargaison, peut-être en vue d'une interpellation, mais pour l'instant, le parquet ne répond pas à ça parce qu'ils n'ont pas de certitude.
Et est-ce qu'elle est dangereuse, cette cocaïne? Parce que, visiblement, elle est hyper active et hyper naturelle, si je puis dire.
Elle est précisément
83% de pureté, donc...
C'est énorme.
83%, c'est compliqué et on ne veut surtout pas que nos habitants puissent la toucher.
Oui, il ne faut surtout pas en goûter parce que là, c'est sûr qu'à mon avis, ça se passe très mal.
Le colis est ouvert, c'est
il y a un problème de santé publique.
Et les colis sont arrivés comme ça sur la plage, pas du tout éventrés, etc.
Ils sont bien emballés.
Bien emballés. Alors c'est vrai que souvent ça vient d'Amérique du Sud, cette drogue. Donc voilà, vous allez porter plainte ou pas vous?
Ah ben non, parce que sur la plage, si vous voulez, on a fermé les accès, mais après le littoral, c'est une affaire de l'État, puisque les affaires maritimes, c'est eux qui gèrent la partie plage. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de plainte à porter. Le parquet, aujourd'hui, est en train d'enquêter sur ces déversements de cocaïne sur nos plages, mais nous ne portons pas plainte.
Ouais. Non, c'est vrai que cette cocaïne, en tout cas, elle arrive souvent... la porte d'entrée, on va dire, de la cocaïne en France, c'est le port du Havre, figurez-vous. C'est par là que la cocaïne arrive en France la plupart du temps. Alors très souvent, au Havre, ils trouvent de la cocaïne, ils en récupèrent, etc. Mais il y a toujours, évidemment, des paquets qui passent à travers les mailles du filet, et puis ça part vers l'Europe du Nord, etc. Quoi.
Et si c'était lutté, ça aurait été très
important, parce que justement, les entrées en Europe sont de plus en plus importantes, que ça soit de la cocaïne ou autres produits stupéfiants. Le contrôle avec notre littoral qui est immense, c'est compliqué.
Ouais. Merci en tout cas, Laurent Perrondet, d'avoir été avec maire de Lacanau. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dans un instant, le débat des Vraies Voix. L'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Réunion demain au ministère avec plusieurs leaders de la droite, notamment. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Question, faut-il interdire les listes communautaires en France? On vous attend au 0826-300-300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Eh bien pour l'instant c'est 50-50.
Eh bien à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Pas les étudiants.
Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Babette de Rosière, Maxime Thiébaud, Philippe Rossi et bien sûr Trina. Notre débat dans les vraies voix, l'union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Réunion demain au ministère avec plusieurs leaders politiques de droite notamment. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Question, faut-il interdire les listes communautaires en France? On vous attend au 0826 300 300 et bien sûr sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
Eh bien pour l'instant, pour nos auditeurs votants, c'est le oui qui l'emporte à 92%.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Jean Préau, bonsoir.
Bonsoir.
Toujours avec des chemises. C'est qui fabrique ces chemises là?
Je n'ai pas le droit de faire la publicité. C'est une marque française.
C'est d'accord. La Babette, c'est Babette.
C'est Babette chemise.
C'est la couleur, c'est la diversité.
Si vous nous regardez, si vous nous regardez, en tout cas, ben vous pouvez parler. Vous êtes tout en noir. Bienvenue au club, n'importe quoi. Si vous nous regardez en tout cas,
pas de diversité.
Ah pardon. Si vous nous regardez en tout cas sur le Facebook Live, vous pouvez constater avec nous que nous faisons de la télécouleur également et pas que de la radio. Voilà. Hein. Franchement, non mais c'est très bien. Hein.
Une autre pour la semaine prochaine.
Ou ça
t'es jaloux, Christophe?
Non, pas du tout. Mais je trouve ça très intéressant. Ça met de la vie, quoi.
Ouais, hein. Très bien.
Ça sort de la grisaille quotidienne.
Voilà, absolument. Exactement. Il fait très gris.
Et il le porte bien.
Le printemps dans nos cœurs.
Alors Jean Préau, secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans français est avec nous. Et puis Jonas Haddad, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat, secrétaire départemental adjoint des Républicains en Seine-Maritime, ancien président des Jeunes de l'UMP. Alors le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui assistera demain à la réunion organisée au ministère de l'Intérieur, l'a encore dit hier, il faut interdire les listes communautaires aux municipales. Êtes-vous d'accord avec ce souhait, cette volonté de plusieurs dirigeants politiques d'interdire ces listes et en particulier parce que celle qui revient le plus souvent, hein, j'ai presque envie de dire la seule qui revient dans la bouche des uns et des autres, eh bien c'est l'Union des démocrates musulmans français. Jonas Haddad, pour commencer.
C'est une question qui est sensible parce qu'elle s'inscrit dans un contexte qui est très tendu, mais la tension n'empêche pas la fermeté. On n'a pas besoin d'être énervé pour dire clairement les choses et prenez des valeurs républicaines.
Une fois qu'on a dit ça...
Alors je continue. Oui. Quand un parti
ça, c'est l'avocat qui parle.
Il va continuer. Oui. Quand le parti
pas de langue de bois
se
ici,
positionne hein, comme étant anticolonialiste, je le cite, hein, issu de son site internet, anti-impérialiste, anti-sioniste, et que par ailleurs, il veut promouvoir le droit du port du voile à l'école, parce que il considère que ce serait islamophobe que d'interdire ce port du voile à l'école, alors qu'à l'époque, la classe politique, dans son unanimité, Mélenchon compris, avait voté contre ce port du voile à l'école, on voit bien qu'il y a des revendications communautaire. À partir de quand on devient une liste communautariste?
Parce que alors je vais vous répondre.
Attendez, Jean Préau, c'est à moi d'édicter au départ et puis après on répondra.
Ne vous inquiétez pas, Jean.
Du coup,
il faut bien qu'il s'exprime quand
même. À partir d'une notion très simple, à partir du moment où on veut remettre en cause des lois républicaines pour installer à la place des lois religieuses. Point final. Lorsque les lois religieuses sont supérieures aux lois républicaines, ça s'appelle du communautarisme et ça n'a pas sa place dans notre République.
Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut interdire l'Union des démocrates musulmans français?
Ça veut dire qu'il faut interdire toute liste qui propose de remplacer des lois républicaines par des lois religieuses.
Tout à fait d'accord, Jonas. Je suis d'accord avec vous car ce n'est absolument pas notre cas. Donc il faut interdire en effet les listes qui veulent mettre les lois religieuses au-dessus des lois républicaines.
Ah ben, là, ce que vient de dire Jonas,
nous sommes d'accord. Non, on mais peut
par
partir.
Exemple, le port du voile à l'école. Le port du voile à l'école.
Non, eh bien nous sommes absolument pas pour remettre en cause cette loi. Nous avons critiqué cette approche qui fait qu'on stigmatise une fois de plus une partie de la population et on pense qu'il y a vraiment d'autres priorités actuellement que de s'attaquer à ce sujet-là. Les priorités, c'est plutôt, je pense, pour les Français, le chômage, la montée des inégalités, l'augmentation de la pauvreté, l'isolement des personnes qui vivent loin des centres-villes, etc. etc.
Monsieur, est-ce que vous avez manifesté hier par les Gilets jaunes?
Non, je n'ai pas manifesté hier. Pourquoi? Il fallait...
Non, eh bien, répondez-moi pourquoi.
Parce que j'ai une famille, j'ai 6 enfants et que je n'ai pas pu. Et
est-ce que vous plus serez ça, je n'étais associé à cette manifestation qui considérait que les lois de 2004 et de 2010 contre la burqa, étaient des lois liberticides?
Mais là, vous êtes en train de me faire un procès d'intention.
Je vous pose une question.
Vous me dites, est-ce que vous seriez allé à cette manifestation?
Non, je ne me dandine pas quand je le fais, je vous le dis tranquillement.
Moi, je suis désolé. En fait, je ne suis pas un avocat professionnel ni un homme politique professionnel. Je suis un citoyen qui me suis levé face au traitement
professionnel, c'est pas une critique, hein.
D'une communauté qui est en permanence stigmatisé alors qu'on a des sujets bien plus importants pour la France actuellement.
Oui, mais actuellement. Alors, justement, donc, est-ce que absolument, vous m'avez pas répondu à
oui,
question,
oui, oui. Nous ne voulons absolument pas installer des lois religieuses
donc
à la place. Ça, c'est du Zemmour, ça, c'est du Houellebecq.
En fait, vous voulez quoi?
Nous, nous voulons tout simplement que cette communauté qui est toujours désignée à la vindicte populaire soit protégée et donc nous
n'avez pas de mesure à proposer.
Tout autant des musulmans que
vous
de...
n'avez pas de proposition. Si nous avons une proposition, c'est-à-dire nous sommes musulmans.
Voir. Si, eh bien, bon, on va continuer
le débat. Je voudrais qu'on entende Philippe qui nous appelle au 0826-300-300 depuis Oléron-Sainte-Marie, je crois, hein, c'est ça. Hein. Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe. Oui, c'est Oléron.
Oléron, voilà, c'est ça. Alors voilà. Dites-moi. Absolument, absolument. Alors dites-moi, de votre côté, est-ce que vous estimez tout d'abord que l'Union des démocrates musulmans français est un parti communautaire et est-ce que les partis communautaires doivent avoir des listes municipales?
Alors moi, je vais vous dire, il faut absolument interdire ce genre de liste. Est-ce que vous connaissez, vous, un pays musulman où les catholiques ont le droit de faire des listes pour se présenter à des élections? Moi, j'en connais aucun, je suis pas un historien, donc je vois pas pourquoi n'accepterait-nous dans notre pays ce qu'eux ne toléreraient pas chez eux. En plus de ça, très honnêtement, là, l'invasion est déjà en route, et moi j'ai pas envie que mon pays finisse en République islamique et que le drapeau français soit remplacé par...
Ouais. Philippe, voilà. Alors, non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça prouve quand même une chose, c'est qu'auprès d'un certain nombre de Français aujourd'hui, il y a quand même une inquiétude, et ça, on peut pas le nier. Il y a une inquiétude. Après, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui... Non mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même 5 millions de Français qui sont musulmans et qui sont bien Français. Eh oui, qui sont oui. bien français.
Mais comment vous faites la différence sur les gens qui vont se mettre sur les listes? Expliquez-moi. Si vous avez les moyens, enfin vous, pas vous, mais si nos chers dirigeants, si notre monarque et sa cour, ils sont capables de faire la différence en disant « Ok, celui-là on peut, celui-là on peut pas », ben, on ne peut pas le faire, donc à partir de là.
Non mais
ben, oui.
Moi j'entends bien. Juste une chose. S'il faut interdire l'Union des démocrates musulmans français, on verra bien ce qui sera décidé à l'issue de cette réunion, si quelque chose est décidé, ce qui n'est absolument pas certain. Mais à ce moment-là, il y a aussi d'autres mouvements qu'il faudrait peut-être interdire. Du style, par exemple, le Parti social chrétien, alors n'a plus lieu d'être, par exemple.
Tout à fait, mais il faut
bah, Monsieur Poisson, par exemple,
chrétien-démocrate.
Oui, enfin, bon, mais... vous savez très bien ce que oui. c'est.
Et à aucun moment, ils ont proposé de remettre en cause des lois républicaines en raison de convictions religieuses.
Ça, c'est vrai.
Nous ne remettons pas en cause les lois républicaines. En revanche, le Parti chrétien-démocrate a manifesté de façon massive contre la PMA, etc. Donc, ils ont aussi des positions. Voilà, tout à fait. Comme nous, on a pu exprimer notre désaccord par rapport à certaines lois, mais nous nous plions à la loi. Ce que j'aimerais quand même raconter, on parle par exemple du port de voile à l'école. Okay, ça, le problème est bien plus grave. Moi, je vais vous parler d'accompagnatrices. Vous savez, qui accompagnent les enfants handicapés. Elles enlèvent le voile pour rentrer à l'école. Donc, elles ne portent pas le voile à l'école. Un jour, la directrice la voit remettre son voile dans le reflet de la glace dans lequel elle remet son voile. Elle est virée le soir même.
C'est où ça?
Ça, c'est un problème. Il y a nos limites. Ça, c'est dans le 93.
D'accord.
D'accord. Non, mais je peux vous donner en privé les coordonnées de la personne concernée.
Il y a une question sur tout ce débat-là. Il y a une question, en fait, d'ordre juridique. C'est-à-dire que partir du principe qu'on doit interdire un parti politique qui se base sur une religion, pour moi, est liberticide, que ce soit le PCD ou votre parti politique. La question est de savoir si votre parti, comme le PCD, souhaite que la loi religieuse soit au-dessus de la loi de la République. Alors, je finis mon explication. C'est-à-dire d'être contre la loi sur le voile de 2004. En soi, c'est un débat démocratique. Après, c'est au Parlement de voter, de dire est-ce qu'on la remet en cause ou pas. Par contre, de défendre la charia comme étant supérieure à la loi de la République, là, ce sera un problème. Je vais être honnête, je n'ai pas lu votre programme politique, donc je ne m'exprimerai pas sur votre programme politique. Ce que je vois, c'est que le PCD, qui peut dire « je suis contre la PMA, contre la GPA », même si elle vient être votée, ils ont droit de tenir cette position. À partir du moment où ils respecteront la loi, à partir du moment où elle sera votée. Si votre parti politique, il respecte la loi de la République, à partir du moment où elle est votée, il n'y a pas de souci. Que vous teniez une position qui, pour moi, est contraire à la laïcité qui est celle de dire il faut rétablir le voile dans les collèges, etc. Si c'est votre position politique, pourquoi pas, dont acte. Si par contre, vous venez à dire il ne faut pas respecter la loi, Là, il faut vous interdire.
Nous sommes tout à fait d'accord et je veux vraiment très, très, très clairement dire, il est hors de question que nous prônions même la charia. C'est n'importe quoi.
Nous sommes un parti
pour qui le mot musulman, je veux dire, le mot musulman, j'ai déjà donné cette image, c'est comme les petits poissons dans l'eau des citernes. Tant que ce mot gêne, c'est qu'on a un problème dans notre démocratie. On a l'impression, quand on est musulman en France, qu'on doit s'excuser. Désolé, Philippe, 10%, en effet, des Français sont musulmans. Beaucoup d'entre eux, leurs grands-parents, ont franchi le Rhin. Vous savez comment s'appelle le premier soldat français à avoir mis les pieds sur le territoire allemand en 1945?
Allez-y, parce que
le soldat est le caporal Sadok, d'accord, 4e régiment des tirailleurs tunisiens. Elle est où sa photo? Il est où son monument? Je veux dire, ils ont payé le prix du sang.
Musulmans, premièrement.
Qui est-ce qui a libéré tous les 3 500 000 soldats français prisonniers des camps?
Non, mais
ça c'est important.
Non, mais attendez, il y a un truc qui me choque.
Juste pour dire, ça c'est pour Philippe, parce qu'il a l'air de remettre en cause la francitude, en quelque sorte, des musulmans. Pour répondre à votre question, parce que c'est ça, c'est vrai que elle est très bien posée. Nous ne remettons pas en cause les lois de la République. Les lois de la République ont voté pour l'interdiction du port de voile dans les écoles.
Il faut
la respecter. Nous militons contre l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. Si la loi passe à l'Assemblée nationale, nous la respecterons.
Je pense que vous avez oublié, et je vous le disais tout à l'heure en privé, que le fait d'accompagner des sorties scolaires de façon voilée, c'est simple, encore une fois, ça relève du service public. Et à l'époque, moi je me souviens, j'étais au ministère avec Luc Châtel, on avait pris une circulaire très claire, sans être énervé, sans parler d'invasion comme ce monsieur, parce que quand même il y a des termes qu'il faut éviter. Hein, moi je le dis, vous voyez, on peut être très calme, mais il faut éviter ce genre de termes d'invasion. Et à ce moment-là, ça a voulu être remis en cause. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas accepté cette circulaire qui interdisait les accompagnatrices voilées. Et je trouve ça dommage, parce que lorsqu'on est dans un temps scolaire, l'école, c'est le creuset de la République. Si à l'école, chacun vient avec sa revendication religieuse, eh ben malheureusement, ce creuset, il n'existe plus. Donc si vous voulez que demain, on vive, comment il disait Colomb, les uns à côté des autres... Parce que si on vit les uns à côté des autres, à la fin, on finira les uns contre les autres.
Ouais. On se voile un peu la face, mais c'est déjà un peu le cas.
Oui, mais alors il faudrait peut-être éviter d'accroître ça.
Une question, monsieur. Que dites-vous aux 27% de musulmans qui considèrent que la charia doit être au-dessus des lois de la République? Que dites-vous, vous, officiellement?
Je leur dis, en tant que représentant du DMF, qu'ils se trompent. Et je vous rappelle, on avait parlé de la radicalisation précédemment, et que nous prenons, par exemple, nous sommes là, je pense... Alors, j'ai vu que Philippot nous avait copié. Mais nous sommes les seuls à prôner la rupture des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, parce qu'ils financent les prédicateurs qui partent dans les banlieues et qui rabaissent l'islam vers le wahhabisme. Sachez que nous, on est pris entre deux feux. D'un côté... Malheureusement, Monsieur Bertrand, qu'on pensait plus modéré que ça, mais surtout Madame Le Pen. Les wahhabites,
Monsieur
les salafistes,
Préau,
qui disent
vous oubliez,
que nous jouons le jeu de la démocratie, qu'on n'a pas le droit, vous avez dit que vous seriez calme, et que nous pourrions jouer le jeu de la démocratie.
Là, c'est exceptionnel, parce que vous êtes en train de jouer exactement la stratégie des frères musulmans. Je sais très bien votre stratégie. La stratégie, c'est la suivante, c'est de dire, il y a d'un côté les racistes et de l'autre côté les wahhabites. Et nous, on est tranquilles, les frères musulmans, entre-temps...
Alors, je ne sais pas qui sont les frères musulmans, on va pas les présenter.
Ah oui, alors le secrétaire général des musulmans de France ne sait pas qui sont les frères musulmans? Il y a beaucoup de progrès à faire.
En termes de personnes, je ne sais pas qui sont ces personnes.
Vous ne connaissez pas cette organisation.
Je ne les connais pas. Derrière
la réflexion qui est faite par Jonas, et puis on va aller vers la réclame incessamment, mais derrière cette réflexion.
Vous connaissez juste une chose, je ne sais pas si les frères musulmans, il en fait partie. Je ne sais pas.
C'est le fils d'un des créateurs.
Oui, c'est le petit-fils d'un des créateurs.
Juste une chose. Derrière cette question et derrière ce qu'on vient de soulever, ce que Jonas a soulevé, on vous écoute, on a l'impression que vous êtes effectivement, par rapport à votre programme, très démocrate. D'ailleurs, quand on lit un petit peu effectivement ce qu'il y a dans le programme, il y a 7 défis capitaux dans lesquels vous dénoncez à la fois la pollution plastique, l'évasion fiscale, la non-assistance aux migrants. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Vous dites aussi pêle-mêle, accorder le droit de vote aux étrangers, instaurer une loi qui condamnera toute diffusion de discours de haine envers la communauté musulmane.
Je vous signale que cette loi existe déjà, hein, donc je ne vois pas l'intérêt d'en faire une autre, mais ce n'est pas grave. Puis la mise en place d'un comité d'éthique pour contrôler la presse. Donc on vous remercie parce qu'on pensait qu'on était libre. Je ne sais pas si on le serait encore demain si vous étiez au pouvoir. J'en sais rien, je ne sais pas, je dis ça. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière toutes ces belles paroles, tout ce qui est écrit sur le site internet, etc., qui paraît relativement globalement acceptable, on va dire, est-ce que ce n'est pas une façon de vous cacher? Est-ce qu'en réalité, derrière tout ça, il n'y a pas des radicaux?
Alors, je rappelle une chose, nous sommes tous des citoyens. Je viens d'où, moi? J'ai ma petite boîte, ma PME, qui gagne tout juste un petit peu d'argent. Najib Azergui, le président, il est formateur aux nouvelles technologies chez Orange. Le numéro 3, il est directeur d'un magasin d'une marque d'électroménager. Et nous, on se retrouve face à des politiques professionnelles. Et pourquoi on s'est levé? On s'est levé parce que, bon, moi, par exemple, je suis de culture protestante à l'origine. Et j'ai vu ce que ça donnait quand 10% de la population française est stigmatisée, dénoncée et livrée à la vindicte populaire. Je vois ce que ça donne. Ça appauvrit le pays. Nous, on veut la concorde nationale. Si jamais...
Non, mais vous auriez pu faire un parti politique sans mettre le mot musulman.
Mais non, parce que c'est
le
mot qui fait mal, le mot qui manque, qui est un problème.
Pour faire de la concorde, je suis désolé. On n'utilise pas des éléments de langage de victimisation en permanence. Il y a que ça.
Qu'est-ce que j'ai utilisé comme élément de langage de victimisation?
C'est très implicite.
Allez-y.
C'est très implicite. Moi, je travaille dans une entreprise. Moi, je suis ici, on en prend plein la figure.
C'est juste pour dire qu'on n'est pas des professionnels de la politique.
Je suis désolé. Moi, je suis allé à la fac de la République en Bourgogne. J'avais une amie qui était voilée. Elle a fait ses études. Elle est aujourd'hui. Oui, pour moi. Bon, elle était voilée, elle disait qu'elle portait le voile. Bah, elle portait le voile, musulman.
Pas la burqa, le voile.
Elle a réussi le NM, elle est magistrate, elle a retiré son voile. Bon, elle a réussi, quoi. Il faut arrêter cette victimisation à la con, qui en plus vous dessert, parce qu'au contraire, vous créez de la stigmatisation contre vous. Mmh. Et ça, c'est une vraie erreur. Moi, je pense qu'au contraire, vous devriez valoriser des projets qui viennent de personnes qui sont françaises.
Aucun dans les
7
défis capitaux, hein. Là, j'ai écouté les 7 défis capitaux, qui sont peut-être d'ailleurs une référence à des péchés, je n'en sais rien.
Mais
peut-être. Mais les 7 défis capitaux, excusez-moi, hein, mais c'est quoi votre proposition positive?
Il n'y a pas de positif.
Eh bien, on va le savoir juste après la réclame, dans un instant, chers amis.
Il y en a.
L'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner, réunion demain au ministère de l'Intérieur avec plusieurs leaders. Politique, tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Et cette question, faut-il interdire les listes communautaires en France? 0826 300 300, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat, l'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Christophe Castaner. Réunion demain au ministère de l'Intérieur avec plusieurs leaders de la droite notamment. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Question, faut-il interdire les listes communautaires en France? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, ma chère Trina.
C'est toujours un largement oui pour nos auditeurs votants, 92%.
Toujours avec nous Jean Préau, secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans français, Jonas Sadad, avocat et secrétaire départemental adjoint des Républicains en Seine-Maritime. Et puis au téléphone au 0826 300 300, Patrick qui nous appelle de Fréjus. Salut Patrick.
Oui, bonsoir.
Alors
bonsoir.
Patrick, quel est votre sentiment, vous?
Eh bien, ma réflexion, elle est très simple. Je dirais qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Quand on connaît un petit peu l'histoire, et vous la connaissez tous, l'histoire des pays arabes, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, et même le Maroc, qui est un pays arabe moderne, ils font tout pour bloquer l'émergence de ces listes communautaires et de tous ces fractions qui peuvent être faites. Et nous, en tant que Français, on dit ben soyons tolérants, soyons ouverts, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que nous, si on fait ça, il y aura des gros problèmes. Et j'ai rappelé quelque chose que peut-être vous devez savoir. Si certains connaissent le Maroc, je connais quand même pas mal. Au Maroc, lorsqu'ils parlent du roi, bon, bah, c'est Dieu. Et la devise du Maroc, c'est Dieu, la patrie, le roi. Donc Dieu est toujours en premier. Alors c'est pas choquant ça, que Dieu soit en premier, mais il faut pas que Dieu rentre dans la politique et que les listes communautaires, ça rentrera dans la politique.
Mais tiens, on va demander à Jean Préau. Jean Préau, pour vous, Allah passe avant tout?
J'ai déjà répondu que...
Non mais c'est intéressant de répondre à Patrick, là. Donc,
vous savez, petit-fils de résistant, plus un autre grand-père qui nous a défilé avec le drapeau bleu-blanc-rouge et le gong le 14 juillet, habillé en bleu-blanc-rouge, il n'y a pas plus réplique.
républicain que nous, et je suis garant de, du respect des lois républicaines dans notre parti. Donc, en revanche, il faut absolument répondre.
Donc, les lois avant notre Dieu. Ami. On est d'accord. Les lois
bien
avant
sûr,
Dieu.
Bien sûr, mais c'est évident. Quoi. C'est,
non, mais vous le dites pas. Vous dites bien sûr, c'est évident, mais dites-le, les lois avant
les
Dieu.
Les lois républicaines passent, pas avant Dieu, passent avant toute autre loi. Toute autre loi.
Excusez-moi, monsieur.
Il n'y a que les lois républicaines, Patrick. D'ailleurs. Alors, Patrick. Non, je veux quand même corriger une chose. Les musulmans, monsieur, ce ne sont pas que les Arabes. Les musulmans, c'est très, très riche. Il y a des Français convertis, qu'ils soient de Paris ou des Antilles. Alors, ils sont nombreux. Il y a des Turcs, il y a des Bosniaques, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Il y a, voilà. Donc, faut pas tout le temps faire un parallèle avec les pays arabes.
Il y a 5 millions de musulmans en France. Hein, bon,
tous sont français.
Ils ne sont pas tous convertis.
Donc, quand on parle des 5 millions, ils sont de nationalité française. Ils sont nés en France, monsieur. Donc, ce ne sont pas, il n'y a pas à les comparer avec, non, à vous faire des comparaisons
argument,
avec les autres
non,
pays.
Mais votre argument, monsieur, je le connais par cœur. J'ai vécu 10 ans au Maroc. Au Maroc, quand ils se lèvent le matin, quand ils vont quelque part, c'est parce que Dieu l'a voulu. Inch'Allah, ils vous le répètent 25 fois par jour. Et quoi qu'ils fassent, c'est toujours Dieu qui l'a voulu. Alors, après que vous me dites qu'en France, il n'y a pas cette rupture avec Dieu, je suis d'accord, certainement, mais quand même. C'est fait comme ça. Cette religion, elle est très très forte, vous voyez. Bon, c'est comme ça. Et comme cette religion, elle est forte, eh ben, ça se fait en communautarisme et tout est autour de Dieu. C'est comme ça. C'est le vendredi, il faut aller à la mosquée, les 5 prières par jour, le ramadan, cette religion.
Oui, tout est construit autour de la religion.
C'est comme ça.
C'est un peu différent, oui. C'est un peu différent.
Vous savez, monsieur, ma mère est catholique, mon père était protestant. J'ai deux oncles et tantes rescapés de la Shoah, adoptés en 44. J'ai trois fils protestants et trois autres enfants musulmans.
Arrêtez de vous défendre.
Non,
mais c'est pas possible, si. Que ça.
Non, mais je veux juste expliquer que je connais la diversité. Et donc, je connais la diversité des religions. Et que Dieu est très présent chez les catholiques. Et on fait de la même manière. Chez les protestants, on parle beaucoup de la prédestination. Et Dieu est tout puissant aussi au niveau personnel.
Jonas Haddad.
Honnêtement, moi, je respecte. Franchement, je pense que je respecte vraiment votre engagement et votre engagement religieux. C'est vrai que quand monsieur
votre religieux.
Auditeur non attendez non, mais laissez-moi je vais plutôt venir à votre défense là. Je dis juste que l'auditeur en question c'est vrai il dit que la religion structure les pays musulmans mais c'est pas pour autant qu'il faut interdire la pratique religieuse de personnes qui sont musulmans là n'est pas la question et je viens là plutôt là en votre défense par rapport à ça. Il y a des catholiques qui sont extrêmement pratiquants, il y a des juifs qui sont extrêmement pratiquants, il y a des bouddhistes qui sont extrêmement pratiquants. Absolument. Mais la question c'est que ça relève du domaine privé. Voilà. Et je ne veux pas demain d'une union des bouddhistes de France qui réclameraient certaines choses. Je ne veux pas demain d'une union des démocrates juifs de France. Et le Parti chrétien démocrate, tant qu'ils respectent les lois de la République, ça me va. Si demain ils font le contraire, bah ça m'ira pas. Voilà. Mmh. Il faut respecter les pratiques religieuses de chacun. Mmh. Si vous voulez faire la prière 5 fois, eh ben, grand bien vous en fasse. Et il faut pas vous critiquer pour ça.
Moi, j'ai une question à vous poser. Alors peut-être Maxime, je sais pas qui peut répondre, mais si demain on disait il faut interdire ce parti. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer la Constitution ? Est-ce que ça serait facile à faire ?
Pas la Constitution, parce que je pense qu'on pourrait, sur le fondement de l'article 4 de la Constitution, l'interdire, comme sur les partis politiques.
C'est-à-dire que
l'article relatif aux partis politiques, à la liberté des partis politiques. Oui. Et vous êtes obligé de vous présenter à une élection. Il y a la liberté des partis politiques en France, dans la mesure où ils respectent l'ordre public et respectent les lois de la République.
Donc, le respect de l'ordre public.
Vous pouvez interdire un parti politique en France, on l'a déjà vu, lorsqu'il attaque la République, les institutions républicaines. Je pense que sur ce fondement-là...
Le respect de l'ordre public.
Sur ce fondement-là, il faudrait légiférer pour prévoir que le préfet puisse interdire à une liste, parce qu'en plus, ça dépend des villes. Il faudrait voir concrètement le programme de chaque liste, dans chaque municipalité. Donc c'est très compliqué, en plus. Comme
le programme, il est clair. Jonas Haddad.
Le programme, il est très clair. Regardez, hier, excusez-moi, il y avait une manifestation qui partait d'un sujet sur la stigmatisation des musulmans.
Ça va être notre débat dans une demi-heure.
Hier, je vois les vidéos à cette manifestation.
De Marwan, mais je ne parle pas de vous. Désolé, vous n'êtes pas au centre.
Non, mais on parle de l'UDMF comme parti à être interdit.
En tout cas, c'est vrai que vous n'êtes pas le seul représentant.
Je vois des vidéos de Marwan Mouhamad qui est sur un char et qui dit Allahu Akbar.
C'est vrai.
Ouais, mais ça c'est
vrai.
Quel est le sens, d'accord ? Et ça, c'est pas Dieu au-dessus des lois républicaines ?
Poser la question à Marwan Mouhamad, qui ne fait pas partie de l'UDMF,
non, mais
qui
pour
ne
le
concerne
coup,
pas.
Pour le coup,
j'imagine qu'il y avait des représentants, le président de l'Union des démocrates musulmans
français, il était chez lui. Non, il n'y était pas. On n'était pas invité.
Ah,
on n'était pas invité.
Allez, on va devoir clore le débat rapidement. J'ai encore une question. Jonas Haddad. Jonas Haddad, le parti traditionnel.
Vous êtes plus laïque que Mélenchon, c'est génial.
Jonas Haddad, les partis traditionnels montrent qu'ils qu'ils ont peur d'affronter d'autres partis comme celui-ci, par exemple. Non, vous croyez pas ?
Certainement pas peur, mais c'est juste une question qu'il faut fixer le cadre de ce que c'est que
la République. L'interdire, ça permet de ne pas l'affronter, en
mais
tout cas.
Mais peur de quoi ?
La France insoumise va perdre son fonds de boutique.
C'est pas parce qu'on a peur.
La France... Non, mais je sais pas, je pose une question.
Attends, oui, effectivement. Bah attends, la France insoumise le fera pas, et la France insoumise s'est compromise hier. Et vous savez, le Mélenchon qui posait avec Charb, avec Gris, avec Volinsky, qui disait que la burqa était grave pour la République, eh bien, le même est allé hier. J'imagine sa gorge serrée, lui, le laïcar, lorsque des gens sur des chars étaient en train de crier à la Wakbar, et qui disaient que c'était leur slogan. Mais comment il a pu y rester ?
On va avoir l'occasion d'en débattre dans un instant. La fin de notre débat. L'Union des démocrates musulmans français dans le viseur de Castaner. Réunion demain au ministère de l'Intérieur avec plusieurs leaders de la droite. Tous demandent l'interdiction des listes communautaires aux élections municipales. Et cette question, faut-il interdire les listes communautaires en France ? Résultat sur les réseaux sociaux. Trina.
Bien, sans surprise, c'est le oui qui l'emporte à 91%.
Et merci.
On a perdu 1%. Et pourtant, je peux vous dire en tant que responsable marketing qu'il y a un biais dans la question quand même. Hein.
Mais il n'y a pas un biais dans la question. C'est une vraie question. Hein. On a le droit de se la poser. Voilà, on est dans
En
tout cas, merci Jean Préau d'avoir été avec nous, secrétaire général de l'Union des démocrates musulmans français, et Jonas Haddad, avocat et secrétaire départemental adjoint des Républicains de Seine-Maritime. À tout de suite.